bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
La bande originale.
Oui, quoi
est
encore.
Et de retour pour de vrai.
On va se gêner, tiens. Ouais. Et tous nos vœux, évidemment.
Évidemment.
On vous embrasse. À tout à l'heure midi pour d'autres infos avec Laetitia Caillé.
J'espère bien.
Original, soyez les bienvenus avec Léa Cadon.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Et un autre Alexis, notre invité, Alexis Michalik.
Ah bon,
Tout à l'heure, Tanguy Bassureau sera avec nous. Mais pour bien débuter, bien démarrer cette année, Alexis Michalik, vous allez bien, Alexis?
Mais je vais très bien, ma foi.
C'est vrai?
Enfin, je sais pas, je vous dirai ça mercredi soir.
Ouais, ce que j'allais dire, dans quel état êtes-vous? Parce que c'est une semaine très, très, très particulière pour
c'est
vous.
C'est vrai, c'est un état d'excitation. Écoutez, je suis assez content, mais je suis plutôt serein, moi, dans la vie en général.
Vous pas un petit peu peur, quand même?
c'est pas mon argent, hein. Moi, je perds pas ma maison si jamais ça marche pas. Mais j'aimerais bien quand même que ça fonctionne.
Qu'il y ait des gens
qui viennent voir le film.
C'est un enjeu de taille quand même pour vous.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est un premier film et puis c'est pas un petit premier film. C'est quand même un film en costume, voilà, historique avec des merveilleux acteurs, merveilleux décors, des costumes. Enfin bon, voilà.
En tout cas, c'est une réussite.
Ah bah merci, c'est gentil.
Bravo. Tiens, vraiment. Vous avez des bonnes résolutions pour un petit tour de table de bonnes résolutions. Allons-y.
Très bien.
Allons-y.
Oh non.
Quelles sont vos bonnes résolutions, vous?
Moi, c'est alimentaire. C'est vrai.
Faites le Green Monday.
J'essaie de. Ouais, non, moi, c'est tous les jours. Non, déjà, je bois pas d'alcool.
Mais faudra vous y mettre.
Merci, quand même.
Je
sais.
Écoutez un professionnel de l'alcool.
Ah, oui,
c'est
oui.
Toi, il parle.
Je vous écoute.
Je vous
m'y mette.
Si vous voulez.
Mais c'est mieux de s'y mettre sur le tard, non?
Peut-être.
Parce que du coup, on découvre des choses un peu. Ouais, c'est vrai.
Ouais,
mais on découvre des bons vins. On commence pas par de la piquette, quoi.
Daniel, il prend tout.
Donc bonne résolution essentiellement.
Oui, voilà, moi, pas de sucre, des trucs comme ça, quoi.
Très bien.
Voilà. Bien manger, quoi.
Alexis Le Rossignol, on fait la série des Alexis. Bonne résolution.
Bah, les fringues, déjà, non?
Non, les fringues, apparemment, il n'a pas pris la résolution.
Arrêtez, c'est pas mal, ça.
Ouais,
non,
c'est
mais
bien.
Il fait du crépi aussi à côté. Enfin,
non. Un jour, ça sera la mode, je sais pas quand.
Ça va, si c'est comme ça.
Donc, pas de résolution?
Non, j'en ai pas.
Tom Villa?
Peut-être la cigarette, ouais, arrêtez.
Ah, je vais reprendre. Daniel.
Attendez.
Comment les deux mots ne vont pas dans la même phrase?
Daniel Morin, c'est porter les mêmes chemises tous les jours.
Ça peut être mauvaise résolution en même temps. Mais ce matin, Green Monday. J'ai pas pris d'entrecôte en me levant.
Pas le temps.
Leïla, bonne résolution.
Ne pas en prendre parce que je vais pas les tenir. Donc du coup, je serai dans l'échec. Donc on va éviter un échec supplémentaire. Et toi, c'est quoi?
Et vous, Nagui? Ouais.
Rendre l'antenne à l'heure.
Un truc possible.
Alors sur Alexis Michalik, on va parler évidemment de Edmond, ce film événement qui sortira mercredi sur les écrans. La question est de savoir, Alexis, justement. Vous l'avez un peu cramé la première question. Il a arrêté de manger quoi?
De la viande.
Ouais, sucre. C'est ça. Non, il a arrêté de manger du sucre. Mais ça, c'est pas une bonne résolution. Donc vous aviez arrêté déjà depuis un bon bout de temps.
Ouais, enfin, en tout cas, j'essaye.
Vous avez rechuté, ouais.
Ouais, j'avais un peu rechuté. Bah, c'est les fêtes, quoi. Ouais. C'est difficile. Ouais.
On peut pas manger absolument sans sucre.
Si.
Non.
Sucre industriel.
Oui, sucre industriel.
Non, mais j'imagine que fruits.
Si on est vraiment radical, ouais, on peut arrêter les fruits, etc. Mais moi, bon, ça va, je suis pas.
On peut avoir une vie de merde aussi.
C'est ça, on peut vivre en cellule.
C'est ça.
Je crois que je connais le dossier.
C'est ça. Enfant, que faisait Alexis Michalik tous les mercredis et samedis?
Du sport. Du sport?
Non, pas de sport.
Il se battait.
Enfin, c'est sport, mais pas du corps.
Baston.
Il jouait aux échecs.
Non. Dame.
Non.
Scrabble.
Non.
C'était pas de jeu de société.
Mot croisé.
Time's up.
Non.
C'est
fléché.
Un truc qui se fait seul.
De la musique.
C'est un truc qui se fait seul, oui. Et en silence.
Non.
J'ai bien une idée, mais.
Il méditait. Non. Il faisait la sieste.
Semaine,
enfant.
Enfant, bah, je sais pas.
Enfant.
Il priait, il lisait.
Oh non, mais
merci,
non.
Merci, Alexis.
Mais je rêve.
T'as failli dire merci, chérie.
Oui, c'est
quand même très bizarre.
Je fais des mimes.
T'as perdu une dent.
Je refuse.
Jean-Louche, il a plus de dents. Sans rien.
Elle a un côté Jean-Paul Sartre.
J'ai pas le droit.
On a eu le strabisme en 2018.
Bientôt, sera à côté Jean-Paul II, c'est vrai.
Vous alliez à la bibliothèque. Merci. Enfin, du moins, vos parents vous emmenaient à la bibliothèque.
Ouais, la bibliothèque municipale dans le 18e, à Mairie 18e, très exactement. Ouais, ouais, on lisait des BD, tout ça, on prenait des bouquins, enfin, c'était très chouette. On n'avait pas de télé, en fait, à la maison.
La force de la lecture, l'ouverture d'esprit, le problème, c'est que, enfant, est-ce qu'on n'a pas envie de lire et de poser aussi des questions en même temps, en disant, ça veut dire quoi, ça? Comment faire
une bibliothèque? Moi, je posais beaucoup de questions à mon père. Alors, ça veut dire quoi, ce mot? Et mon père a toujours la même réponse. Va chercher le dictionnaire.
Très bien.
Donc voilà, c'est bien.
Très bon réflexe.
Bah oui, c'est pédagogique, hein. Voilà.
Qui reste un autre livre aussi que l'on peut feuilleter en silence.
C'est ça.
La chose indispensable pour qu'il passe de bonnes vacances.
Soleil.
De la musique.
Il faut du soleil, mais il faut qu'il
la
y ait
mer.
Lié à une activité.
Exactement.
Ouais, la mer.
Ah, c'était facile. Ouais, ouais.
Bon, enfin, ça va. Hein.
C'était.
Et pour une fois, pour
il n'y a pas de petits points.
J'ai deux réponses là.
Non, l'autre a été refusée.
Ouais.
Pour une fois que tu refuses, quand tu souffles pas. Était synonyme de vacances et mer.
Ouais. Là, j'étais en Guadeloupe. Là, j'en reviens il y a 3 jours. C'était merveilleux.
Ça se voit pas. Là, vous avez pas.
Non, parce que je cherche pas à bronzer.
Bah, c'est réussi.
Ouais, merci.
C'est une bonne résolution. Bien mettre en valeur ses invités.
Quelle particularité.
Il est odieux.
Quelle particularité ont toutes les pièces d'Alexis Michalik?
Il n'y a pas d'acteur star.
Non, exactement.
Ah oui.
Pas de tête d'affiche dans la distribution.
Mais absolument, ouais.
Il y en a qui bossent,
mais que des très bons comédiens. C'est pas parce que
ça n'enlève en rien à la qualité, évidemment, du casting et des comédiens. Avec Edmond, ça a été une preuve. Les autres pièces aussi. C'était un choix, soyons honnêtes. Un choix dès le début ou par défaut, vous êtes dit, tiens, finalement, ça marche bien comme ça.
Non, mais c'est juste qu'au début, moi, je ne faisais pas des pièces qui étaient destinées à avoir du succès. Donc, c'était des pièces qu'on amenait à Avignon, etc. Puis, en fait, ça a rencontré le succès et je me suis dit, pourquoi je me ferais chier
Moi, je fais pareil avec mon one-man show, mais ça n'a pas de succès.
Mais non.
Est-ce qu'au début, vous avez écrit des pièces pour vous donner des rôles?
Non, mais je jouais dedans au départ dans les premières pièces, mais plutôt pour parce que ça faisait un acteur en moins à payer. Quoi. C'était vraiment du sens pratique.
Mais on devient là aussi encore une fois honnêtement, on devient auteur quand on est comédien, puisque c'était quand même à la base ce que vous faisiez. Quand on est comédien et qu'on devient auteur de pièces, c'est parce qu'on ne reçoit pas les scripts que
pas
l'on
veut
lire, non?
Non, vraiment pas. C'était pas par frustration, c'était juste parce que j'avais envie de faire plein de choses. Mais d'ailleurs, je suis toujours comédien, hein, je continue à tourner de temps en temps, etc.
Et dans Edmond dans le film aussi.
Et dans Edmond dans le film aussi, ouais, voilà.
Une sorte de caméo.
C'est un petit clin d'œil. Mais
ça rime avec caméo, rime avec Fedo.
Exactement. Je fais Georges Fedo qui est un insupportable winner dans le film, une tête à claque, que j'adore. Et voilà. Non, c'est pas par frustration, c'est vraiment par envie de tout faire. Moi, j'aime bien avoir en fait, c'est la liberté de tout faire. Vous devez le savoir, hein, quand on multiplie l'expérience, que ce soit radio, télé, etc., on a la sensation que, on a moins l'angoisse de pas travailler, de s'ennuyer, de tout ça. Moi, d'écrire, de mettre en scène, de réaliser, de jouer, ça me permet de jamais m'ennuyer.
Contrairement à beaucoup de personnes autour de cette table, Alexis Michalik n'a jamais été...
un dealer de drogue.
C'est dégueulasse, on a dit qu'on n'en parlait pas.
Mal habillé.
Il n'a jamais été...
célibataire.
Arrêtez en état d'ivresse.
Exactement.
Non.
On a dit qu'on parlait pas des vacances.
Mais j'ai jamais été arrêté.
J'ai fui beaucoup.
Jamais.
Alors on enlève l'arrestation, mais vous n'avez jamais été ivre.
Non, puisque j'ai jamais bu d'alcool.
Oui, jamais.
Ça c'est dommage. Vraiment c'est dommage. Faut essayer un jour.
Ouais.
Tu es à l'antenne. Tu es à l'antenne, Leïla.
Faut pas. Encourager. Non, j'ai dû boire une bière à 14 ans et me dire en fait c'est dégueulasse quoi. Donc depuis rien.
Ah, oui. Faut insister un peu puis après on prend goût.
Ouais, mais je crois. Ouais.
Beaucoup de choses comme ça.
Comme beaucoup de choses. Ouais.
Alors que faire justement pour faire une fête ou un anniversaire à Alexis Michalik, que justement les amis d'Alexis pour ses 30 ans qu'ont-ils fait?
Ouais, c'est compliqué ça. Un escape game
une surprise.
Un escape game classique.
Un dancing.
Surprise oui, mais quel genre de surprise?
Ouais, ça vous trouverez.
Il en est en voyage.
Non.
Ils l'ont kidnappé.
Non, dans un théâtre.
Ils l'ont cassé la gueule.
Ils ont fait une représentation spéciale pour lui, dans la salle.
Alors c'est lui sujet unique de la représentation.
Ils ont fait un cabaret autour de Ma vie, mon œuvre. Voilà, je remercie mes amours d'amis, Régis Vallée, Ariane Mourière, Yedda Asgharzadeh, Olivier de Tédoïde.
C'est formidable ça. C'est-à-dire, vous avez vu votre vie défiler en spectacle.
Ouais, c'est très étrange. Hein. Au début, quand on arrive là et puis ça commence, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mort? Est-ce que c'est... Et il y avait tous mes potes et ma famille étaient dans le public et à la fin ils disaient en fait ça nous a fait très bizarre de voir qu'on fait ça pour quelqu'un de son vivant.
Ouais, c'est un truc.
Vraiment, c'est, le genre de, c'est le genre c'est... d'hommage.
Ah non, Michel Drucker intervient quand on est presque mort.
Et c'était au Théâtre des Béliers.
Et ça fait un parallèle avec Edmond aussi, finalement, parce qu'il y a pas mal de points communs avec vous et Edmond Rostand, jeune homme.
Oui, c'est pas faux. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des points communs qui sont arrivés après. C'est-à-dire que moi, l'idée d'Edmond, je l'ai depuis 15 ans. Et donc, bien avant que je fasse des spectacles et que je fasse de la mise en scène, etc. Et il se trouve qu'en fait, la vie d'Edmond, première pièce à 29 ans, enfin, premier succès à 29 ans, c'est un peu,
c'est
ça ressemble un peu à moi, quoi.
Avec le porteur d'histoire.
Ouais, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte des points communs, mais c'était après coup, quoi. C'était en répétition, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai vécues, quoi.
Et il vous aurait pas piqué des trucs, par hasard? Il vous aurait pas piqué des trucs?
Ouais, c'est possible.
Et il faut pas tomber dans la prétention de dire, je suis Edmond Rostand non plus. Donc, non, mais j'entends bien. Il y a beaucoup d'autodérision.
C'est toute proportion gardée. Voilà. Je dirais, Edmond Rostand, c'est le succès de Cyrano, c'est un succès qui n'aura jamais d'équivalent aujourd'hui et qui.
Alors,
c'est pas
parlons
possible,
du quoi. Film. C'est ce que vous faites raconter à Jean-Claude Carrière, qui est la voix off, entre guillemets, qui compte au début du film. Cette.
Non, pas du tout. C'est Jean-Michel Martial qui fait la voix off.
C'est pas vrai.
Si, si,
j'étais sûr. C'est Honoré.
Non, pas du tout. C'est Monsieur Honoré,
J'ai cru que c'était Jean-Claude Carrière.
Mais
incroyable.
Jean-Claude Carrière, effectivement, ça aurait été une belle idée parce qu'il était scénariste qui avait adapté Cyrano de Bergerac pour Rapneau. Mais pas du tout, c'est pas lui.
Plein d'excuses.
Non, mais j'adore.
Mais est-ce qu'on est d'accord sur la tessiture qui on n'est pas
similaire? Oui,
non,
on
Nagui, tu t'es planté,
Non, Alexis, non, mais
franchement, quand on connaît l'un et l'autre, c'est vrai que leur voix se ressemble.
Non, mais Jean-Michel Martial. Il est super, Jean-Michel Martial.
Oui, absolument, que je me suis honoré. Mais, et qui raconte effectivement l'entrée dans Paris, etc. Mais en tout cas, c'est une belle gaffe, en tout cas, c'est une belle plantade.
Ça fait jeu avec la Guadeloupe, bien joué.
Donc, cette pièce a été la plus jouée, c'est le plus gros succès du théâtre français.
C'est la pièce française qui a été la plus jouée dans le monde depuis sa création. Ouais, c'est difficile à dénombrer parce que ça y a eu tellement d'adaptations.
Même devant Molière, même devant des classiques.
Oui, parce que Molière, en fait, il a fait plein de pièces qui se sont jouées, mais il n'y a pas un tube. Cyrano, c'est un tube partout dans le monde. Et ça a été un tube parce qu'en plus, ça coïncide avec l'arrivée du cinéma. Donc, tout de suite, ça a été adapté au ciné. Il y a eu plein d'adaptations de Cyrano. Il n'y en a pas eu qu'une. On la connaît évidemment, celle de Depardieu. Mais avant, il y avait eu une dramatique télévisuelle avec Daniel Sorano que tout le monde avait vue. Enfin, c'est vraiment. Partout dans le monde, en fait, on dit, est-ce que vous connaissez Cyrano, ce mec avec un long nez? Ah oui, Cyrano, Depardieu, d'accord. Mais par contre, quand on dit, est-ce que vous connaissez Edmond Rostand? Là, il n'y a plus personne.
En fait, Edmond Rostand, c'est le Patrick Hernandez du théâtre. Il a fait un tube.
C'est
ça
a failli être la catchline du film. Ouais. Le Patrick Hernandez du théâtre.
Vous avez bien fait de ne pas le faire. Ce film, donc, avec Thomas Oliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Lucie Bougenat, Tom Leb, Clémentine Sélarier, Alice de Langsin, Igor Etzmann, Dominique Pinon, Antoine Duléry, Simon Abkarian. Enfin,
quel beau casting.
Il y a un casting de dingue. Il y a un casting de dingue. Vous n'avez d'ailleurs, contrairement à la pièce, il n'y a qu'un comédien qui est à la fois au théâtre et au cinéma.
Et c'est le même qui fait la voix off au début, c'est Jean-Claude Carrière.
C'est ce que espèce de voyou.
C'est Jean-Michel Martial qui est extraordinaire. Oui, parce que les autres comédiens, en fait, étaient tout simplement en tournée à ce moment-là, au moment où nous, on tournait le film, et donc ils n'étaient pas disponibles, sauf que Jean-Michel, lui, il avait eu un alternant, et donc il était libre, il jouait sur Paris. Je dis, écoute, viens jouer Honoré, et il est fabuleux dans le film.
Donc l'histoire, cet auteur, est joué, mais ne rencontre pas le succès. Ça commence même par une espèce de bide avec des critiques qui se...
Un four absolu.
Ouais, qui se moque de lui. Et donc, il est obligé de trouver de l'argent, enfin, ou de gagner en tout cas, de cartonner, parce qu'il a des enfants.
Il est condamné, voilà. Mais en fait, il était déjà brillant, il est marié, il a deux enfants. Il était déjà un poète talentueux, sauf qu'il écrivait des pièces qui étaient un peu en poulet. Il n'y avait pas de comédie, il n'y avait pas d'humour, il n'y avait pas d'héroïsme. Et donc ça marchait pas trop, quoi. Ça marchait pas, en fait. Et puis il va rencontrer l'acteur Coquelin, Constant Coquelin, qui est un peu la star de l'époque, qui est un peu le Gérard Depardieu de l'époque, on va dire, que Sarah Bernard va lui présenter.
Sublimement joué par Olivier Gourmet.
Merveilleusement joué par Olivier Gourmet.
Super.
Et Coquelin va lui dire, écrivez-moi une pièce, et il va improviser ce qu'il a dans la tête, ce serait sur Cyrano de Bergerac, sauf qu'il a pas écrit encore la pièce.
Et faire rire avec des Alexandrins, c'est aussi le challenge.
Moi, je pense que c'est pour ça que Cyrano a cartonné, c'est parce que c'est à la fois drôle, émouvant, héroïque. Et cet humour-là n'est pas dans ses pièces précédentes. Et c'est ça qui a fait la différence, je pense.
Vous en avez fait donc une pièce qui a été un énorme succès, que ce soit à Paris ou en tournée.
Et qui continue de se jouer tous les soirs au théâtre du Palais Royal.
Toujours au Palais Royal.
Ouais. Il fallait changer le casting ?
Non, il fallait pas du tout. Non, encore une fois, c'est juste que on allait tourner janvier-février 2018. On avait une tournée énorme qui se faisait en même temps. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Soit je repoussais le film d'un an pour attendre les comédiens et ça devenait très compliqué parce que on sait ce que c'est le cinéma. Déjà, financer un film, c'est compliqué. Financer un film sur le théâtre, c'est encore plus compliqué. Il fallait faire le choix d'y aller. J'ai pris une nouvelle équipe.
Quoi. Et justement, financer un film avec des acteurs qui sont moins connus, c'est peut-être aussi plus difficile ?
Non, ça, pour le coup, pas du tout. Gaumont m'a vraiment dit, on veut une troupe. Ouais. On veut que, comme dans la pièce, on veut cet effet de troupe. Et donc, j'ai essayé de former une troupe avec des comédiens plus confirmés, comme Gourmet, Mathilde Seigner, Clémentine Sélarier. Et puis, des comédiens qu'on n'a pas forcément vu beaucoup au cinéma, mais qui sont, je trouve, merveilleux dans le film, comme Tom Leb, Lucie Boujna, Igor Gottesman, Alizé Langsin.
Et vous vous êtes posé la question de la réalisation, c'est-à-dire que d'un coup de se dire le premier film que je vais écrire, je vais réaliser, je vais tout faire.
Moi, j'en rêvais.
Un moment de un doute.
Moi, pour vous dire la vérité, j'en rêvais depuis des années, mais c'est une histoire un peu.
En tout cas, c'est une réussite avant. Merci beaucoup. Quelle que soit votre réponse, la réalisation est formidable, vraiment formidable.
Merci infiniment. Mais il y a 5-6 ans, quand on a commencé à développer le scénario, parce que c'était un scénario avant d'être une pièce, c'était un scénario qu'on essayer de monter et initialement c'était pas moi qui devais le réaliser et on l'a proposé à un ou deux réalisateurs ce scénario qui ont décliné et moi j'étais super
parce que
content.
Trop coûteux parce que
non
ça
parce que ça
pas.
Les intéressait pas quoi le théâtre c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde le sujet ou quoi ou qu'est-ce ou des raisons personnelles mais en tout cas moi j'étais tellement content secrètement parce que je me disais peut-être que ça veut dire qu'un jour je vais pouvoir le réaliser quoi et puis ensuite on a essayé de le monter avec moi en tant que réalisateur et puis on n'y est pas arrivé parce que compliqué le théâtre machin et puis finalement en désespoir de cause je leur ai dit pourquoi je le ferais pas au théâtre justement. Ils m'ont dit, vas-y, fonce.
Franchement, il y a beaucoup de désespoir de cause pour autant de succès au rendez-vous.
C'est fou, hein. Ouais. Mais vous savez,
c'est
souvent le cas.
La vie est un choix par défaut, non, quand même pas.
Je pense que tous les gros succès pourront vous dire, personne n'en voulait au départ. Il y a toujours un truc comme ça. Star Wars, c'est pareil. Bon, je compare pas à Star Wars, bien sûr, mais.
Ah, si, un peu quand même, là, vous l'avez fait. Vous venez de le faire, là, juste à l'instant.
C'est quoi, Charles Carrière qui faisait Chewbacca?
Juste à l'instant.
Mais voilà, en tout cas, je pense que tous les gros succès ont une histoire comme ça. Et c'est le cas, évidemment, de Cyrano. Cyrano, personne n'y croit à la base. Edmond Rostand, quand il essaie de présenter Cyrano autour de lui, personne n'y croit. Les producteurs sont persuadés que ça va pas marcher. Les acteurs eux-mêmes disent ça va être un four, quoi. 100 personnes sur scène en costume.
Il écrit la pièce au fur et à mesure. Il rajoute même des actes.
Ça c'est ma version à moi. Évidemment, c'est romancé quand même. C'est une fiction, mais
ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir comment la pièce se construit en fonction des événements qui touchent, tout son environnement.
Bien sûr, c'est une mise en abîme de sa vie.
C'est malin
etc.
de ce point de vue-là.
Mais à la fin, ça va être un triomphe phénoménal et extrêmement inattendu. Et dans la salle ce soir-là, et c'est vrai, il y a des choses qui se sont passées que je raconte même pas dans le film tellement elles sont dingues. Le soir de la première, entre deux actes, il y a un ministre qui est dans la salle et qui va voir Edmond en coulisses et qui arrache sa propre Légion d'honneur qui lui donne et qui lui dit « Écoutez, je vous la donne, vous allez voir, la vraie viendra dans quelques jours. » Et 3 jours plus tard, il reçoit la Légion d'honneur.
Génial.
C'est quand même incroyable. Il rentre à l'Académie française 3 ans plus tard.
Pourquoi ne pas le mettre tellement c'est dingue?
Parce que, c'est des raisons scénaristiques, mais parce que moi je voulais qu'on ait le suspense jusqu'aux applaudissements. Si on a déjà la Légion d'honneur avant les applaudissements, alors on sait que c'est déjà un triomphe.
Et puis c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin.
C'est
vraiment au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Oui, bien sûr, ça se passe au théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc nous on n'a pas filmé au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouais. On a tout filmé en République Tchèque. Mais grâce à la magie des décors et des costumes et des effets spéciaux, on a essayé de recréer un Paris un peu féerique.
C'est réussi, Il y a un petit côté Amélie Poulain, il y a un petit côté. Je sais pas si c'est.
C'était complètement voulu. Amélie Poulain, moi j'adore sa vision de Paris très idéalisée, quoi. Et on voulait essayer de faire un peu la même chose, mais version 1895 en hiver, quoi.
C'est au cinéma ce 9 janvier. Ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller évidemment en famille, voire en scolaire. J'imagine des professeurs emmener des classes entières pour voir, même si c'est une fiction, même si c'est évidemment. Un film, ça reste un spectacle et ça donnera envie, encore plus d'ailleurs, de redécouvrir la pièce puisqu'elle est là en filigrane, elle est présente cette pièce. Donc on a aussi l'histoire l'histoire de Cyrano. Edmond au cinéma à partir du 9 janvier et ça, de ce mercredi, ça va être un succès, Tom.
Ah oui, bah oui, oui, bien sûr. Enfin, non, mais si, succès. Enfin, succès, je sais pas, je suis pas voyante, mais
Tom vous le dit.
Non, mais je le souhaite. En tout cas, un truc bien, ça, c'est sûr. Ça, je pense que c'est...
Excusez-moi, vous avez vu le film?
Le film d'Alexis Michalik. Pas tout à fait.
Ok, d'accord. Est-ce que vous vous rendez compte de. Pendant les vacances, on peut travailler quand même. Bonne vanne.
Sinon, c'est pas le concept des vacances. Non, c'est piéger son propre piège. Non, le film, je l'ai pas vu, mais la pièce, je l'avais vue il y a 2 ans. Et je m'étais dit, il y a 2 ans, bah voilà, je la vois. On n'est pas à l'abri que ça devienne un film, puis qu'il vienne un peu original. Donc j'avais déjà eu le pif. Et puis même, j'avais fait un tweet. Donc je me suis dit, du coup, je vais peut-être pouvoir intégrer le masque et la plume. Et non, pour le film, en fait, je l'explique à nos auditeurs. Nagui m'a envoyé un lien internet à 23h30 pour regarder le film. Problème, n'importe le lien expirait quoi. À minuit. Et regarder un film d'une heure cinquante en 30 minutes, c'est impossible. C'est pas plus belle la vie. Donc voilà. Non, mais ce qui est génial, oui, vous l'avez dit, Alexis, c'est que, à la base, c'était un film que vous vouliez faire. Et comme personne n'en voulait, c'est devenu une pièce. Et après, tout le monde en voulait. Du coup, c'est redevenu un film. Alors après, c'est pas un schéma qu'on peut plaquer partout. Regardez François Bayrou, il voulait être président. Personne n'en voulait. Il a fait maire. C'est pas pour autant qu'il fera président. Mais finalement, Edmond, c'est vrai, on l'a dit, c'est vous, Alexis. Edmond Rostand, comme on l'a dit, il galère à rencontrer le succès, il écrit Cyrano, boum, sa carrière est lancée. C'est Inception, vous écrivez une pièce sur Edmond Rostand, qui écrit une pièce sur Cyrano, et le succès arrive. Est-ce que la prochaine étape, Nagui, ça serait pas de faire une pièce sur un mec qui écrit une pièce, sur un mec qui écrit une pièce, et on appellerait ça...
Poupérus.
Alexis. Un homme qui voulait faire un film, que tout le monde refusait, et qui après refus, sur porte dans la gueule, a écrit une pièce de théâtre sur un homme qui a écrit une pièce de théâtre sur un homme qui écrit des poèmes avec un gros nez.
Ah non, t'as un peu court.
Oh, ta gueule. Bonjour, je voudrais faire un film.
Ouais, c'est quoi votre nom?
Alexis Michali.
Sur quoi?
Sur quoi de qui?
La pièce sur quoi vous voulez faire?
Sur Cyrano de Bergerac.
C'était fait, non? C'est pas un peu redondant, jeune homme?
Oui, alors attendez, moi je voudrais faire un film sur sur Edmond Rostand qui écrit une pièce sur Cyrano de Bergerac, voilà.
Ah ouais.
Ouais.
Non.
D'accord.
Plutôt non.
Mais du coup, Alexis Michalik tenta sa chance ailleurs. Bonjour, je voudrais faire une pièce de théâtre.
Bah, je sais bien, mon gars, vas-y.
Non, mais vous voulez pas connaître le sujet, ou moins?
Bon, là, du moment que tu payes la salle, je m'en fous. Chèque, espèce, carte bleue, ticket resto, je m'en fous.
Bah, ticket resto, alors, ok, d'accord.
Ok, merci, mon gars.
Et puis le succès arriva.
Monsieur Michalik, vous voulez pas faire un film sur le mec qui a écrit une pièce de théâtre?
Bah, ça dépend, vous m'aviez dit non.
Non, mais j'ai pas dit non, je vous avais dit oui.
Non, vous m'avez pas dit oui, vous m'avez dit non.
Non, on est prêt à payer ce que vous voulez. Par exemple, je peux vous faire un chèque tout de suite.
Alexis, très bientôt sur vos écrans. Et ce qui prouve bien, comme dit le dicton, qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles.
Oscar Wilde.
Non, Frédéric Lopez, dans Panique dans l'oreillette. Allez, bonne émission. France Inter,
Nagui, la bande originale. La bande originale avec Edmond, ce film dont nous parlons sortira le 9 janvier prochain avec Thomas Soliveres, que vous aviez repéré avant même de vouloir faire le film avec lui.
Oui, je le connais depuis longtemps, c'est un ami en fait. Je le croisais à Avignon souvent. Mm-hmm. Et puis je savais qu'il avait, il a un visage très juvénile, hein, Thomas, il fait très jeune. Et dans les films qu'il a fait jusqu'à maintenant, il a fait Sale gosse, mon poussin, Spirou. Il utilise justement cet aspect. Très lisse.
Très différent les uns que les autres d'ailleurs.
Bien sûr. Mais il a ce côté très jeune, etc. Et moi je l'avais vu au théâtre dans des rôles beaucoup plus profonds. Et je me disais, mais en fait, il a la capacité à la fois de porter cette jeunesse et de dire les vers de Cyrano, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça a été le cas.
Est-ce qu'on peut revenir à la genèse de toute cette histoire? C'est-à-dire, vous vouliez au début, vous avez vu Shakespeare in Love.
Oui.
Et vous avez dit, mais pourquoi nous qui avons Cyrano de Bergerac, pourquoi on ne ferait pas cette même entre guillemets mécanique, ce même concept?
Ouais, j'ai pas fait tout de suite le lien avec Cyrano. Au départ, j'ai vu Shakespeare, je me suis dit, ah, c'est fou qu'on ait pas fait ça en France, quoi, avec un auteur français. Et c'est quelques années plus tard, en relisant Cyrano et en apprenant sa vie, j'ai appris deux choses. D'abord, le côté personne n'y croyait, c'était un four, c'était un succès phénoménal à la première. Et ensuite, son âge, 29 ans, où pour moi, Cyrano de Bergerac, c'est écrit par un mec qui a tellement d'expérience qu'il est forcément vieux, quoi. Et non, en fait, il avait 29 ans. Et je me suis dit, ça y est, on l'a le film. Parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, c'est un tube, comme Patrick Hernandez. Il a fait un tube que tout le monde connaît, c'est Cyrano. Donc ça se passe en une nuit, et c'est cette nuit qu'on raconte évidemment dans le film.
Donc vous, vous écrivez votre Edmond, que vous avez peut-être déjà baptisé Edmond ou pas à l'époque. Voilà, en tout cas, votre Shakespeare in Love, vous faites votre Cyrano in Love.
Pour Légende Production à l'époque.
Voilà. Vous allez proposer à un producteur pour en faire un film. Là, ce que vous racontiez tout à l'heure, vous le proposez à d'autres réalisateurs, voire peut-être vous-même, mais trop de budget, pas les moyens nécessaires pour le faire, et on vous dit non, ça va pas être possible, c'est ça?
On nous dit, le scénario nous intéresse, mais ça va être compliqué.
Ça veut dire non, quoi.
Ouais.
C'était déjà Ilan Goldman à l'époque?
Goldman, lui, il a tenu le projet du début, en fait. On est allé le proposer à des financiers, Gaumont, donc, qui étaient intéressés, avaient vu le scénario, avaient dit non, le scénario nous intéresse, mais c'est un peu léger, c'est normal, il manque une star, il manque un truc.
Voilà, vous refermez le dossier, vous le mettez dans un tiroir, vous écrivez d'autres pièces,
vous pleurez un peu.
Vous faites votre vie, vous buvez toujours de l'eau, vous allez en vacances au soleil.
Comme, ça, Edmond Rostand.
Ouais. Très bien. Et là, vous partez en vacances ou en week-end, je ne sais pas, à Londres.
Exactement, exactement, vous êtes bien renseigné.
Et vous allez au théâtre.
Et je vais au théâtre. Et qu'est-ce que je vois au théâtre? Eh bien, je vois l'adaptation de Shakespeare in Love au théâtre. Et c'est en voyant cette adaptation que je me dis, mais en fait, mais ça pourrait marcher au théâtre, Edmond. Et c'est en revenant de Londres, j'en parle à Ilan Goldman.
Vous réécrivez donc votre scénar de film pour en faire une pièce de théâtre.
Exactement.
Et il l'a produit, cette pièce de théâtre?
Il a participé, on va dire.
D'accord.
Parce que il est pas producteur de théâtre, mais en tout cas, il m'a donné son feu vert. Il m'a dit, vas-y, trouve un théâtre. Et c'est le théâtre du Palais Royal, Francis Nani et Sébastien Zopardi, qui avaient vu le spectacle d'avant, etc. Je vais les voir. Je leur dis, voilà, c'est un projet avec beaucoup
de comédiens. C'est génial. Vous n'avez rien lâché. Et fort de ce succès, après, vous revenez. Est-ce que vous avez ressorti le scénario de l'époque ou est-ce que vous l'avez légèrement corrigé?
Il a été enrichi par le passage à la pièce. En fait, en adaptant le scénario à la pièce, je me suis rendu compte de plein de défauts du scénario d'avant, quoi. Je me suis dit, mais non, il faut recentrer la fin.
En rythme
ça. En rythme. Il y a des choses qui nous sautent aux yeux, mais de toute façon, c'est normal, c'est le processus d'écriture normal d'un scénario. Si on le laisse pendant 6 mois, on le reprend et il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux, quoi. Donc j'ai resserré sur le triangle amoureux entre Edmond, Léo et Jeanne.
Ça s'amuse,
voilà. Et puis, et puis évidemment, le fait de le tester au théâtre, on voit quel gag fonctionne, quel gag fonctionne pas. On peut faire évoluer le script. Enfin, c'est un luxe énorme, en fait.
Mais juste, si je peux me permettre, moi je l'avais vu donc au théâtre il y a 2 ans et j'avais vraiment pris une claque, et je conseille à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui vont aller voir la pièce, arriver très tôt dans la salle parce que le spectacle commence avant le spectacle.
Et un petit prologue.
C'est vraiment formidable.
Là, tu pars du théâtre. Tu pars du théâtre.
Par contre, au cinéma, arriver à l'heure, parce qu'il n'y a rien avant. Il y a des bandes annonces.
C'est pas mal les bandes annonces.
Mais si ça met dans l'ambiance.
Non, au cinéma, rester pendant tout le générique.
Ouais, exactement.
Parce qu'il y a des petites surprises.
On va en parler si on peut
dévoiler.
Ouais, on en parlera tout à l'heure de ces surprises. L'autre conseil que j'aimerais donner aussi, si pour avoir et vu la pièce de théâtre et avoir vu le film
avec Jean-Claude Carrière,
les deux. Non mais on n'a pas la voix quelque part. C'est quand même dingue. Vous m'aidez pas en plus, Alexis, sur ce coup-là.
Non, c'est vrai.
Non, c'est une erreur.
Mais non, parce que j'ai vu.
Mais en plus, le pire, c'est que c'était une bonne idée. C'est-à-dire vraiment, quand on m'avait dit ça, je me suis dit, mais mince, j'aurais peut-être pu le proposer.
Bien joué, Alexis. Là, il est de bonne humeur.
Ah, mais je suis de bonne humeur.
Je sais.
Là, je peux finir l'émission. Alors que là, il y a deux
ans, je sais.
Pour avoir vu donc et la pièce de théâtre et le film, si vous avez vous aussi vu cette pièce, vous pouvez aller voir le film. Il n'y aura pas ce côté. Non, je connais l'histoire, c'est pas la peine. C'est vraiment un autre spectacle. Et sans avoir vu la pièce de théâtre, voyez le film, puisqu'il est vraiment structuré, construit sur la même ossature que la pièce. Donc l'un ne n'affaiblit pas l'autre.
Et vous pouvez aussi acheter la BD aux éditions
Sèvres. Et il y a de la confiture aussi. Et Born to be Alive de Patrick Hernandez.
Et ça donne envie de voir aussi, de revoir le film de Rapno.
Oui, bien sûr.
Parce que
de relire Cyrano.
Voilà, de relire Cyrano, d'aller le voir au théâtre.
Il y a plusieurs Cyrano en ce moment en plus. Il y a la Comédie Française, ils font je crois qu'ils le ressortent au cinéma. Je ne sais plus si c'est passé ou pas.
La Comédie Française, c'est
la version de la Comédie Française au cinéma.
Non, ils diffusent la pièce de la Comédie Française au cinéma pour 2 soirées.
C'est marrant.
C'est Denis Podalydès.
Mais c'est les 100 ans de la mort de Rostand en fait. Il est mort en décembre 18, donc on vient de fêter le centenaire de sa mort.
Et vous n'allez pas boire un coup pour fêter ça?
Si, une verveine.
C'est Denis Podalydès qui fait la mise en scène et vient
c'est merveilleux.
Et qui
incarne Cyrano.
Exactement. Ouais. Voici Alexis le Rossignol. Alexis, chaque année, le dictionnaire de Cambridge désigne le mot de l'année pour 2018. C'est le terme nomophobie qui a été choisi.
Tout à fait, Nagui. Alors, le dictionnaire de Cambridge, c'est un dictionnaire, hein, comme le petit Larousse ou le petit Robert. Sauf qu'on peut pas faire de blagues de mauvais goût avec. Par exemple, si on remplace Petit Robert par Dictionnaire de Cambridge dans la devinette « Quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel ?», la réponse devient « L'intellectuel, il a le petit Larousse dans la tête et l'homosexuel, il a le Dictionnaire de Cambridge dans le... »
Non, non, non.
Et donc,
non,
ça marche pas.
Non, non.
Et c'est pas mieux, parce que c'était une blague de merde.
Oui, revenons à nomophobie. C'est quoi, nomophobie ?
Étymologiquement, la nomophobie, c'est la peur de se retrouver sans téléphone portable. Ah. Vous voyez, ça vient du grec phobos, qui signifie peur, mm-hmm. et de nomo, qui veut dire téléphone portable en grec. D'ailleurs, Socrate, légendaire tête en l'air de l'Antiquité, disait souvent « Zeus, j'ai oublié mon nomo chez Platon ». À ce moment-là, son disciple lui disait « C'est pas grave, maître, je vais le chercher ». Et là, Socrate lui répondait « Tu gères, Bastien ». Donc, selon le dictionnaire, ce qui parlait de jeunes à l'époque,
oui, ouais,
comme il vivait pas longtemps.
Ouais,
et tout.
Ouais, c'est ça.
Donc, selon le dictionnaire de Cambridge, nomophobie est le mot de l'année 2018. Parce qu'en 2018, des millions de personnes à travers le monde ont commencé à être angoissées à l'idée d'être éloignées de leur portable ou de se retrouver sans batterie ou sans réseau. En 2017, point de vue nomophobie, c'était cool. Il y en avait bien quelques-uns qui avaient déjà une utilisation abusive de leur téléphone, mais rien à voir avec 2018. L'année dernière, c'est monté en flèche comme neige au soleil. Moi-même, je suis devenu nomophobe en 2018. Avant, j'en avais rien à faire de mon téléphone. Que je l'ai pas, c'était pareil pour moi. J'avais mon Walkman dans une poche, ma boussole dans l'autre. J'allais dans des cybercafés checker mes mails. Mais en 2018, il s'est passé un truc. Impossible de me passer de lui, c'est comme une extension de ma main. Je vérifie en permanence qu'il est bien dans ma poche. En dessous de 10% de batterie, je commence à paniquer. Je commence à nourrir un complexe d'infériorité. Je me dis, aucun chroniqueur de talent ne se retrouve avec 9% de batterie. Vous vous souvenez de la parenthèse inattendue de ouais. Frédéric Lopez ouais. Numéro 13 au classement des animateurs hein. préférés des Français.
Ah bon ?
Ouais. Bah, personnellement, je l'avais mis 8e. Mais c'est pas le sujet. Dans l'épisode avec Chaim, la chanteuse, à un moment donné, Frédéric tend une corbeille et il dit, je vais vous demander de me laisser vos téléphones portables. Et là, Chaim lui dit, c'est vrai ? Combien de temps ? Fred lui répond 24 heures. Et là, elle prend son téléphone et elle l'embrasse sur la bouche. C'est là que tu te dis, il y a un problème quand même. Pourquoi Frédéric Lopez invite-t-il Chaim dans son émission ? Mais c'est tellement pratique les téléphones, ça fait tout un téléphone. Ce week-end, j'ai découvert l'application Thermomètre qui te permet de prendre ta température.
Non.
J'avais 37,6, non. Je me suis dit, tu couvres quelque chose. Du coup, j'ai consulté Doctissimo, le site préféré des médecins amateurs, et j'ai lu que jusqu'à 37,8, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, sauf si en parallèle, j'avais une infection hémorroïdale. C'était pas mon cas, puisqu'en prenant ma température, je l'avais pas senti. En dessous de l'article, il y avait un lien qui disait « Vous ne devinerez jamais qui était au bras de Brigitte Macron hier soir ». C'est comme ça, Internet.
Ouais.
C'est comme ça que tu perds du temps. Je me suis dit « Francis Maulm est sorti de prison ». En fait, non, la réponse, c'était Marcel Campion, le forain à qui il manque un H au nom de famille. Alors, ça ferait champion, en fait.
Oui, on a compris. Ouais, ouais,
c'est vrai. Le téléphone, c'est génial, ça permet d'être hyper connecté avec les gens. Moi, dès que quelqu'un m'envoie un message ou like une de mes publications, je le sais. Alors, j'attends 5 minutes avant de répondre pour pas montrer que je passe mon temps à regarder mon téléphone.
Ouais.
Mais à l'inverse, si à 16h32, un pote me répond « Excuse-moi, j'avais pas vu mon message, ton message », alors que je l'ai envoyé à 13h39, soit 2h53 plus tôt, je lui dis « Mytho, je sais que tu l'as vu. J'ai vu le vu. Alors, je te surveille pas, mais me prends pas pour un con. » Et puis... Le téléphone, ça te donne de la contenance en société. Surtout si tu fumes pas ou si tu bois pas. Quand t'es invité chez des gens que tu n'aimes pas, mais t'es obligé d'aller parce que ce sont des gens de ta famille, ben ça occupe en fait. Et puis vous savez, moi j'adore cuisiner. Autre utilisation du téléphone. Je peux pas me passer de mon téléphone quand je fais mes courses. L'autre jour au marché, j'ai pris des pieds de porc. Bon, tu prépares ça avec une sauce madère, c'est le Portugal dans ton assiette à moins de 5 euros. Hein. Mais je me souvenais plus des ingrédients. Et ben j'ai dit « Hola Siri, ¿cuáles son los ingredientes de la salsa madera ?» Parce que dans la rue, je m'adresse à Siri en espagnol. Comme ça, les gens qui se disent « Ce serait pas le jeune humoriste bourré de talent qui officie chez Nagui ?» En m'entendant, après, ils se disent « Ah ben non, c'est un Sud-Américain. »
Puis ça saute aux yeux.
Après, je dis pas que les téléphones sont toujours une bonne chose. Moi, ma mère est addict à Pokémon Go. Parfois, on la perd, on est obligé de détacher le chien pour la retrouver. Non, mais c'est vrai. Quand on voit ce qui se passe dans Fait entrer l'accusé, on n'est pas rassuré quand elle s'éloigne. Enfin bon, j'ai pas trop de chute, si vous voulez, pour cette chronique. Alors évidemment, il y avait un peu d'ironie dans mon propos. Mais voilà, on est hyper connectés, c'est l'époque, c'est ça que je veux dire. Et même Pascal, le grand frère, ne peut rien contre ça. D'une certaine manière, les téléphones portables, c'est un progrès de la société. C'est comme les chaussures. Pendant des milliers d'années, les hommes marchaient pieds nus. Mais depuis que ça existe, tu croises rarement des gens sans souliers. Tu vois. Donc plutôt que se plaindre Mieux vaut se faire à l'idée que c'est comme ça. Il y a pire. J'ai vu des recettes de jambon fourrées au surimi. Je veux dire, on va où? Alors, pour finir, si je peux vous donner un conseil quand même, c'est d'enlever les notifications. Ah. Ça, c'est bien. Rien que de pas avoir les petites lumières qui clignotent, c'est un soulagement. Moi, grâce à ça, je me sens pas obligé, par exemple, de répondre à Leïla quand elle m'envoie apéro, 3 points d'interrogation, à 17h. Mine de rien, à raison de 3 fois par semaine, c'est beaucoup de temps gagné.
Ben oui.
Voilà. Alors, ne me remerciez pas, messieurs, c'est cadeau. Et bonne année à vous.
Connecté. Merci. Allez, silence.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Un film écrit par Alexis Michalik, réalisé par Alexis Michalik, interprété par Alexis Michalik, sortira ce 9 janvier avec également Thomas Oliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné, Tom Leb, Lucie Boujna, Alice Delanxin, Clémentine Sélarié, Igor Gottesman, Dominique Pinon, Simon Abkarian, Marc Andréoni, Antoine Duléry, Jean-Michel Martial qui fait également la voix off au début du film. Ce film sort ce mercredi et je vous encourage vraiment à le voir, c'est un très bon film, un bon spectacle en plus, c'est du cinéma, c'est-à-dire que voilà, il faut se le prendre sur le X mètres carrés de toile, avec ses effets spéciaux, avec ses décors incroyables, et ce plaisir du cinéma, on sent que vous aimez ça, vous.
Bien sûr.
Pour réaliser un film comme ça, il faut être dingue de cinéma.
Ouais, j'aime profondément le cinéma. Moi, encore une fois, j'avais pas de télévision, donc on allait voir le cinéma qu'au cinéma, en fait. Mm. Et puis j'allais tout voir quand j'étais ado, et je pense aussi que je me suis entouré d'une équipe qui aime le cinéma, et une équipe qui sait faire du grand cinéma, comme mon chef-op Gianfiore Coltellacci, qui a fait beaucoup de films, on va dire, qui était à l'époque cadreur pour Fellini, donc ça remonte.
C'est un
vieux de la vieille. Ouais. Et puis voilà, mon décorateur,
Franck Schwartz. Ça vous rassurait d'avoir des...
C'est mon premier film, il faut avoir des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Et puis qui sont capables de... Puis voilà, moi je voulais faire une sorte de... C'est un peu prétentieux, un grand film populaire, on va dire. C'était le but, un film qui est un
familial,
classique,
populaire. Ouais,
voilà,
c'est ça,
exactement. Et je voulais que ça ressemble à du cinéma. Et puis voilà, quand on a autant d'acteurs, des costumes, des figurants, des décors magnifiques comme ça, on a envie de les montrer, on a envie de grues, on a envie de beaux plans, on a envie de quelque chose qui fasse un peu rêver. Et puis voilà,
Et vous offrez de beaux rôles aussi, je pense à Clémentine Sélarié qui est géniale en Sarah Bernard, complètement hystérique, ou encore Mathilde Seigné,
qui est encore plus hystérique.
Sorte de mégère absolue dont on ne sait pas quoi faire finalement.
Et puis qui a eu la dérision de venir jouer une comédienne insupportable, ce qui n'est pas du tout son cas à elle,
mais qui vient saluer quand même.
Ouais, voilà. Mais qui vient saluer quand même à la fin. Non.
La bande originale d'Alexis Michalik, on va commencer par sa date de naissance et vous écoutiez à la maison.
Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre.
Pierre et le loup de Prokofiev, raconté par Gérard Philippe.
Avec la voix de Jean-Claude derrière.
C'est vrai dans le timbre.
Vous êtes des chiens.
Oh, pardon, c'était pour rire.
Parce que c'est pas drôle.
Ouais, parce que vraiment, ça m'amuse plutôt.
Vraiment, c'est pas loin.
Ouais, ben.
Et en plus, c'était une bonne idée, il aurait dû le faire. vous avez grandi en écoutant justement des
Pierre et le loup. Bah oui, bah 82, c'est ma naissance. Donc forcément, je me disais, qu'est-ce que j'écoutais en 82. Donc voilà, c'est le genre de truc, la cassette de Pierre et le loup passé en boucle puisqu'on écoutait des cassettes à l'époque.
Et on parlait d'Amélie Poulain tout à l'heure, vous avez grandi à Montmartre.
Ouais, absolument. Rue Berthe, exactement. Ouais. Et puis après, rue Véron. Enfin, vraiment dans le village Montmartre. Jusqu'à mes 17-18 ans où on a déménagé Place Clichy. Donc vraiment pas très loin.
Ouais, donc vous êtes très 18e, quoi.
Là maintenant je suis très 19e. Mais je suis très parisien, en tout cas.
Non, ça rejoignait Amélie Poulain, en tout cas. Et le cadre.
T'habites quoi dans le coin, Jean-Claude Carrière, là,
c'est pas impossible. Non, mais c'est marrant, Montmartre, quand on a grandi à Montmartre, parce que c'est vraiment, quand j'y retourne, c'est mon village, quoi. C'est parce que c'est un village, Montmartre. Donc, quand il y a des gens, ils retournent chez eux pendant les fêtes, ils vont à la campagne. Moi, c'est Montmartre, quoi. Donc, c'est bizarre.
Et votre père était peintre ?
Mon père est toujours peintre.
Toujours peintre.
Absolument. Il est.
Mais peintre Place du Tertre ou il était.
Pas Place du Tertre. Mais il est peintre.
Caricaturiste ?
Peintre plasticien. Non, pas du tout. Il n'était pas à Montmartre.
Ouais.
Il fait des expos. Voilà. Il est peintre, quoi. Et ma mère était traductrice d'anglais. Elle est anglaise, en fait, tout simplement. Et donc, elle traduisait des bouquins d'art pour la Réunion des musées nationaux, Orsay, tout ça, les expos, les machins. Et maintenant, elle traduit mes pièces.
Ah, d'accord. Bah ouais, collaboration familiale. Vous avez découvert un peu le théâtre, je crois que c'était en 6e. Vous racontez souvent dans les interviews cet épisode-là où c'était une pièce chorale, je crois.
Oui, tout à fait, absolument. Vous êtes vraiment bien renseigné. Vous avez vraiment bien travaillé, dis donc.
Alors,
ah, bravo.
Hein, merci. Non,
mais elle dit ça, elle est là.
Hein. Oui, elle dit ça, elle est là. Absolument.
Oui, Nagui, c'est
ça,
pareil. Moi, voilà. Nagui, c'est pareil.
Et non, c'était une pièce chorale. Je suis arrivé, on était en sixième, et puis tous les rôles avaient déjà été distribués. C'était la conversation Sinfonietta de Jean Tardieu. Mm-hmm. Et puis, la prof m'a dit, prends une baguette et fais le chef d'orchestre. Et finalement, c'était un peu prédestiné puisque quelques années après, j'ai découvert la mise en scène.
C'est voilà. Ça. Et ça. Et là, vraiment, c'est ce souvenir-là, quoi, de joie, de se dire, j'ai trouvé un espace.
Je pense comme tout le monde, c'est le moment où on se dit, tiens, je suis à ma place. Ouais. Tiens, il y a quelque chose qui marche bien. Ouais. À la fois, je me sens bien ici, et à la fois, j'ai l'impression que je me débrouille pas trop mal. Donc, je pense que chacun trouve sa vocation comme ça. Quand
j'ai hâte que ça m'arrive.
Toi, on te remet à ta place. C'est pas pareil.
Et vous alliez voir beaucoup de théâtre enfant ou pas?
Ouais. Mais mes parents m'amenaient beaucoup. La chance d'habiter à Paris aussi. Ouais, j'allais voir les pièces de Brooke, de Mnouchkine, Le Tête du Soleil, la Cartoucherie.
C'est hyper exigeant, ça, pour un enfant?
Oui, enfin, ça dépend.
L'ado.
Il m'amenait pas non plus. J'avais pas 3 ans. Mais c'est exigeant. Mais en même temps, c'est super. C'est merveilleux. C'est des pièces merveilleuses. C'est des pièces populaires et exigeantes. Ça varie. Enfin, tous les grands metteurs en scène de l'époque. Et c'est génial parce que du coup, moi, j'ai grandi avec une vision du théâtre qui n'était pas du tout une vision du théâtre. J'ai pas du tout été dégoûté par le théâtre comme beaucoup de, parfois, d'élèves de lycée à qui on amène pour la première fois et on met devant un Molière un petit peu compliqué avec des vers un petit peu compliqués qui ressortent en disant oh là, plus jamais ça, quoi. Ouais. Moi, pas du tout. Moi, j'ai eu un truc de mais c'est génial le théâtre. Et parfois, c'est encore plus fort que le cinéma quand c'est vraiment très bien fait, quoi.
Ouais, vous l'avez gardé d'ailleurs.
Le paradoxe, c'est que vous faites partie d'une génération qui aurait pu être attirée par Internet, par des programmes courts, par une autre forme d'écriture que le théâtre qui peut donner un côté poussiéreux à l'histoire.
Mais je suis attiré par Internet. C'est juste que ma façon de raconter des choses, c'est trop large. Enfin, les histoires sont trop longues et trop compliquées pour que ça fasse du programme court. Ouais. Et j'ai aussi grandi. En fait, c'est quand je raconte des choses au théâtre, c'est sans oublier toutes les séries, tous les programmes courts, tous les romans, tous les feuilletons que j'ai lus, toutes les BD. Tout ça, ça fait partie de la création. En fait,
on est
forcément influencé par tout ce qu'on a vu. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que mes pièces fonctionnent.
Oui, ce côté page-turner.
Ouais, c'est parce que c'est des pièces qui ne s'adressent pas qu'à un public de théâtre. Ouais. On peut ne jamais être venu au théâtre et pourtant ne pas être rebuté, je pense, par les pièces que j'essaie de proposer.
En 2001-2002, début au théâtre, là, vous écoutiez Frank Sinatra. I've got you. Ça va vous rajeunir, tout ça.
J'étais déjà ringard, effectivement. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart that you're Parce que really on va retrouver indirectement Shakespeare in Love,
bien
puisque
sûr.
L'un des premiers rôles que vous avez joué au théâtre,
c'était Roméo. Ouais, absolument. Mais Shakespeare, c'est mon dieu. Enfin, tout auteur de théâtre, Shakespeare, c'est le meilleur.
Et on retrouve Brooke, mais cette fois-ci la fille, Irina Brooke.
Ouais, c'est Irina Brooke qui m'a casté en Roméo quand j'avais 18 ans. Et d'ailleurs, à un moment, je chantais cette chanson sur dans Roméo Juliette. Et voilà, elle m'a donné le goût de la mise en scène parce que je me suis dit, c'est génial sa façon de mettre en scène. Elle formait un groupe de gens qui venaient de tous les horizons, des slameurs, des danseurs, tout ça, des rappeurs. Enfin, un truc vraiment dingue. Et elle nous faisait jouer à la balle aux prisonniers. Bon, après on travaillait bien sûr, hein, mais enfin il y avait un truc formidable de on va raconter une histoire, on va prendre toutes les libertés qu'on veut, mais ce qui compte c'est que à la fin de la représentation le public soit content, quoi.
Et dans la méthode de travail vous avez conservé ça, le premier temps le jeu et ensuite le texte.
Alors, j'aimerais bien vous dire oui mais non pas du tout. Toute la partie jeu j'ai évacué.
On a aucune preuve.
Non mais j'ai gardé plein de choses évidemment de d'Irina et de sa façon de. En fait j'ai gardé l'essentiel, à savoir il faut créer un groupe. Quand on fait une pièce, il faut former une troupe. Et dans le film, c'est pareil. Le but, c'était de former une troupe. Il faut que les gens qui se retrouvent aient envie de se retrouver, aient envie de passer du temps ensemble et pas seulement viennent travailler.
Grosse différence entre le théâtre et le cinéma, c'est la chronologie dans laquelle les choses se passent. C'était troublant, ça, pour vous, de ne pas tourner dans l'ordre de l'histoire?
Non, j'ai quand même l'habitude. Enfin, je suis comédien aussi, donc j'ai fait des séries, des films, etc. Donc j'ai l'habitude de tourner.
Diane Femme Flic.
Oh oui, Diane Femme Flic. C'était. Mais vous savez que c'était génial, Diane Femme Flic, pour moi, parce que j'avais genre 20 ans.
Ouais.
Et que ça m'a permis, en fait, Diane Femme Flic, donc une série TF1 avec Isabelle Otero qui jouait la flic. Et j'étais content, j'avais un pistolet à la ceinture.
Isabelle que l'on embrasse au passage.
Bien sûr. Et en fait, ça m'a permis tout simplement d'amener ma première pièce à Avignon, parce que grâce à l'argent que je gagnais sur Diane Femme Flic, je finançais les premiers spectacles, quoi.
Et un an après, vous refusez d'entrer au conservatoire. noir.
Oui, tout à fait, absolument.
Ça, c'est peu commun.
Bah oui, mais
pourquoi
bon.
Pourquoi donc
Oui, mais pourquoi?
Non, mais en fait, pourquoi? Parce que j'avais envie de bosser, et puis j'avais pas envie de claquer la porte après, au bout d'un an, et de prendre la place de quelqu'un. Donc j'ai dit, bon, vous savez quoi, en fait, repêcher quelqu'un, moi, je vais aller faire mes trucs.
Mais qu'est-ce qui vous a pas plu entre le temps où vous postulez, vous passez, vous laissez votre place quand même, donc. Vous y allez?
Ouais, mais j'ai eu une discussion avec le directeur qui m'a dit, bon, tu sais, les gens qui bossent déjà, là, parfois, ils claquent la porte au bout d'un an et c'est un peu dommage. Parce
à cause
que
de quoi? Des méthodes de travail?
Non,
de...
parce qu'ils ont envie de bosser. Parce que quand on est au conservatoire, on ne peut pas travailler pendant 3 ans. On n'a pas le droit de tourner, on n'a pas le droit de monter des spectacles, on n'a pas le droit de faire des trucs. Donc voilà, j'avais pas envie de me retrouver dans ce cas-là. Et puis voilà, j'avais envie de sortir. Moi, ce qui comptait surtout, c'était de pouvoir me dire, écoute, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu, donc.
D'accord. Mais vous ne vouliez pas lâcher quoi? Par peur de ne rien avoir comme boulot, justement? Par peur
non,
de,
je voulais pas lâcher.
De perdre des connexions avec ceux qui vous castaient à ce moment-là?
Non, je voulais pas piquer la place de quelqu'un, quoi. Je voulais pas partir au bout d'un an et du coup.
Quand
c'est dommage,
pardon, mais quand on est en train de le vivre, au moment où ça se passe, on se dit pas, je vais laisser ma place à un autre. Surtout dans un métier où, métier d'acteur, il faut tout faire pour, au contraire, prendre la place de l'autre.
Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est un métier d'artisan, ce métier.
Vous l'avez monnayé, votre place?
Bien sûr. Ouais. Je l'ai vendu 300 euros.
Bien joué.
Non, mais je pense que c'est un métier d'artisan. Je pense que le théâtre, c'est un métier qui s'apprend pas dans les écoles, qui s'apprend pas à la fac, qui s'apprend sur le plateau et qui est transmis, dont le savoir est transmis par des gens qui ont plus de talent, mais d'expérience que vous et qui vont vous apporter des trucs. Et c'est en jouant qu'on apprend. Et moi, j'ai tout appris à Avignon, par exemple. Dans le off, ça a été mon école.
C'est une belle école en même temps.
Ah bah, c'est ouais.
Le terrain, ouais. En 2005, vous écoutiez.
C'est un peu cool, là, ça.
Voilà, une chanson sortie en 2005, Let's Get It On de Marvin Gaye.
C'est le principe d'une BO. Non, attention, nous on adore ça parce que le principe de la BO, c'est que en effet pour marquer, le concept de cette séquence, c'est de dire on est marqué par une musique, quel que soit l'âge de la musique. Alors Marvin Gaye en l'occurrence.
Bah, j'ai eu ma période années 50, jazz vocal, Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, etc. Et puis ensuite on est passé un peu dans la soul. Ouais, là on est dans Marvin Gaye.
Très sexy.
Exactement, Otis Redding. Ray Charles, enfin on est arrivé un peu dans les années 60, donc a priori la décennie prochaine ce sera la disco. Marvin Gaye, Let's Get It On, j'adore évidemment, c'est merveilleux ce qu'il chante Marvin Gaye, et puis c'est une chanson qui était dans le premier spectacle que j'ai monté, Une Folle Journée, le mariage de Figaro adapté, et il y avait un peu des chansons un peu rigolotes, et donc il y avait celle-là.
Et Los Figaros.
Et Los Figaros, c'était le nom de notre compagnie, puisque le mariage de Figaro, Los Figaros, donc voilà, c'était la première fois qu'on allait à Avignon en 2005 et on découvrait ce que c'était que cette jungle du off que j'espère chaque année découvre des nouveaux comédiens, des nouveaux metteurs en scène, des futurs, des jeunes et qui se retrouvent attractés pendant un mois et à avoir des pieds cornés, avoir plus de voix, etc.
On peut comparer cette école-là à celle d'un chanteur qui fait la manche dans la rue
aux terrasses
de café. Non, mais je veux dire au sens
y a des salles,
petit level supplémentaire.
Non, ce que je veux dire par là, au sens de il faut savoir faire sa promotion.
Ouais.
Capter l'attention du public et ne pas le lâcher quand il est là pour grandir.
Ouais, c'est une très bonne école parce qu'en fait, on est obligé de tenir compte de l'économique en même temps que l'artistique, quoi. On est obligé de se dire, si je fais un spectacle avec 25 comédiens, en fait, je pourrais pas vendre de dates, je pourrais pas payer les gens, quoi. Donc, et c'est un peu de là aussi qu'est venue ma façon de concevoir des spectacles. Porteur d'histoire, par exemple, il y a 5 comédiens et ils sont tout le temps sur scène parce que, il faut qu'il y ait le minimum de comédiens possible pour raconter cette histoire.
Et puis, il y a peu de décors aussi parce qu'à Avignon, il faut quand même vite laisser la place, parce que démonter, on peut pas se permettre d'avoir ce temps-là.
Exactement, ouais. Exactement. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai un style s'est développé, quoi, en fait, qui était des spectacles qui sont faits pour tourner, qui sont faits pour voyager, qui sont faits pour se déplacer facilement, et donc de raconter des choses avec.
C'est très macronien comme.
C'est macronien, vous croyez?
Il me semble.
Il y a
un peu plus de faste chez Macron.
En 2011. And your eyes turn over like. Ça c'est Kabul Kitchen.
Ouais, bien sûr. French cuisine. Bien sûr, c'est le générique de Cabo Kitchen. En 2011, on était au Maroc en train de tourner Cabo Kitchen.
Série culte.
Série culte pour tous ceux qui l'ont vu, c'est vraiment génial. D'ailleurs, on espère qu'un jour, il y aura une quatrième saison. On sait jamais, on sait jamais. Mais ouais, on était au Maroc pour le tourner. Et en fait, je tournais Cabo Kitchen avec mon collègue Benjamin Belcourt, qui est mon ami en plus et qui était déjà producteur de mes spectacles. Et c'est en 2011 que, en fait, au Maroc, j'ai terminé d'écrire Le Porteur d'Histoire en se disant que lui produisait, en se disant, on espère que ça va faire quelques dates de tournée. Et puis, ça se joue encore aujourd'hui. Ça a été un succès qui s'est fait sur la durée. Et en 2011, j'en parlais avec Benjamin en disant, tu sais, j'ai un espèce de projet, un film, mais franchement, ça va, à mon avis, ça va être compliqué à monter. Ce serait sur la vie d'Edmond Rostand, tout ça, qui crée Cyrano de Bergerac. Mais j'ai pas trop de titres. Et c'est lui qui m'a dit, pourquoi pas tout simplement Edmond. Edmond, c'est un très bon titre. Super. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été plantées en 2011 au Maroc, en train de tourner Cabo Kitchen à Casablanca.
Ah, ça, au Maroc, on plante des trucs. Ça, je confirme.
Ce qu'on récolte, c'est toujours ça facilement.
Et pour revenir au Porteur d'Histoire, il y a un parallèle intéressant aussi avec Edmond. C'est que je crois qu'il y a un festival de jeunes créateurs, les mises en capsule. Ouais. Il y a un désistement. Ouais. Votre ami dont vous venez de parler, Benjamin Delcourt, dit, en gros, il y a une place, est-ce que t'as quelque chose? C'est pour dans un mois, quoi.
C'est pas n'importe quelle place, c'est Nicolas Bedos qui dit non, mais j'en veux pas de votre conservatoire, donnez la place à quelqu'un d'autre.
Il avait des choses à faire, il dit désolé, j'aurais pas le temps de te faire une pièce. Effectivement, il y avait un créneau, je l'ai pris, il m'a dit est-ce que t'as un truc? J'ai dit ah oui, j'ai une pièce dans la tête, ça s'appelle Le Porteur d'Histoire.
C'était écrit déjà ou pas?
Non, c'était pas écrit. Et
donc on est vraiment comme Edmond, quoi.
Voilà, je pense que ça vient aussi de là, c'est que ce côté on doit monter un truc en 3 semaines.
Dans l'urgence.
Ouais, voilà, et c'est dans l'urgence que parfois des idées nous viennent et que on est poussé à être inventif, en fait.
On peut continuer le parallèle avec la muse? Vous avez besoin d'une muse pour écrire?
Pas trop.
Malheureusement, vous avez failli dire.
Non, mais j'aimerais bien pouvoir dire que c'est moi, mais en fait, ma muse, c'est ringard de dire ma muse, c'est le public. J'aime bien.
On a entendu pire. Foncez.
Non, mais je pense toujours. En fait, je vous avoue très honnêtement, j'ai pas besoin de carburant pour être inventif et pour créer des choses. J'en ai besoin parce que j'ai une horreur de l'ennui. Je me lève le matin, il faut que je fasse un truc, quoi. Je suis un peu hyperactif. En fait, s'il y a des choses que je me force à faire, c'est prendre des vacances. Parce que si jamais je me dis pas, allez, je m'arrête, je suis capable de pas m'arrêter, quoi. Et donc, c'est pas très sain, c'est pas bien.
Revenir à Edmond et au beau travail que vous avez réalisé, ce film sort, je le rappelle, ce mercredi 9 janvier. Quels sont les écarts entre la réalité que vous êtes permis pour aller dans la fiction?
Il y en a pas mal. Allons-y. Sans dévoiler les choses.
Pour commencer, est-ce qu'il avait réellement cette vingtaine d'années?
Il avait 29 ans.
Ça, c'est vrai.
Il avait deux enfants. Est-ce qu'il a vraiment écrit
dans l'urgence?
Il n'a pas écrit dans l'urgence. Il avait deux enfants. Dans la réalité, il était moins pris à la gorge par l'argent. C'était un bourgeois, Edmond. Son père était très bourgeois, donc il avait de quoi vivre, quoi. Et Rosemonde aussi avait de l'argent, qui était sa femme. Mais il a écrit Cyrano, effectivement. Avant ça, il avait vraiment fait que des bides. Ça n'avait pas marché, les pièces précédentes. Et quand il écrit Cyrano,
s'il fait que des bides, pourquoi on lui demande d'en écrire une autre?
Parce qu'il avait quand même du talent. Mais comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui font que des bides mais qui continuent de faire des spectacles.
On les reçoit, ils viennent ici quelquefois.
Voilà, c'est pas. Et de toute façon, on n'est pas condamné au succès. On peut faire des très belles choses qui marchent pas, qui marcheront par la suite. C'est pas grave. Et puis derrière, en fait, quand il vient en parler à Coquelin dans la vraie vie, il vient en parler à Coquelin effectivement pendant que Coquelin est en train de jouer.
Le comédien Constant Coquelin, comédien à succès.
Il vient en parler pendant qu'il est en train de jouer Thermidor à la Porte Saint-Martin, et il en parle à l'entracte. Mmh. Et dans la vraie vie, en fait, il commence à lui raconter l'histoire, et Coquelin lui dit « Ok, et après, qu'est-ce qui se passe ?» Et Edmond continue « Bah là, il se passe ça. Ok, à l'acte 2, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, l'entracte a duré 40 minutes. Mmh. Parce qu'il lui a raconté toute la pièce d'Edmond, la pièce de Cyrano.
Donc cette scène avec Dominique Pinon qui hurle en scène,
on y va,
c'est la réalité. Comment vous trouvez ça? Vous avez fait un travail là, cette fois-ci, comme de bibliothécaire, c'est-à-dire vous avez retrouvé votre enfance à traîner dans la bibliothèque, à feuilleter, à vous renseigner,
documenter. Lire tous les livres, puis à se renseigner un peu sur toutes les sources possibles.
Vous avez fait appel à des historiens, à des spécialistes?
Non, j'ai juste acheté tous les bouquins possibles sur Edmond Rostand. Même Rosemonde Gérard, la femme d'Edmond Rostand, a écrit sur Edmond Rostand.
J'ai dit, mais comment défaire le vrai du faux dans tout ce qu'on a pu lire?
Eux, c'est des bouquins d'historiens, donc c'est ce qui se passe de vrai. Et après, moi, je fais ma sauce, quoi. Après, moi, j'invente pour les besoins de la fiction. Mais comme Edmond Rostand, parce que Edmond Rostand, quand il écrit Cyrano de Bergerac, il a vraiment existé. réalité. C'est un vrai personnage historique. Oui. Mais l'histoire de la pièce telle qu'on la connaît, en fait, n'est pas sa vie. Il s'est beaucoup renseigné sur sa vie, mais après, et puis après, il a fait son histoire. Par exemple, Cyrano de Bergerac, que tout le monde connaît, à Bergerac, nous on est allé à Bergerac présenter le film, à Bergerac il y a deux statues de Cyrano et tous les commerces s'appellent Cyrano, tous les commerces, les hôtels, les boulangeries, les machins. Cyrano de Bergerac, il a jamais mis les pieds à Bergerac et il ne vient pas de Bergerac.
Ouais, mais
en fait,
ouais.
il est né, ça c'est Edmond Rostand qui est né à Marseille. Ah, ouais. Cyrano de Bergerac, il est né à Paris et en fait son père a acheté un château dans la vallée de Chevreuse et dont les terres s'appelaient de Bergerac. Donc en fait Bergerac c'est son pseudonyme littéraire par rapport à son château qui était dans la vallée de Chevreuse. Donc, il a jamais foutu les pieds à Bergerac. Et non, nous, pourtant, on est persuadés qu'il est gascon.
Ah oui.
Mais non.
Et vous n'avez pas voulu faire la véritable histoire de Cyrano de Bergerac plutôt que de faire comment Edmond a eu l'idée et là de faire une fiction autour de la naissance de
Cyrano.
De Cyrano.
Non.
Enfin, c'est amusant, Vous avez découvert des choses qui étaient croustillantes pour un scénariste.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la naissance d'un chef-d'œuvre. En fait, ce qui me touche, évidemment, parce que moi-même, je suis créateur, c'est comment transmettre l'idée de génie vient à quelqu'un, quoi. Comment est-ce qu'un jeune homme, tout d'un coup, il a une idée et ce truc va devenir mais un truc énorme que tout le monde connaît aujourd'hui. À quel moment est-ce que ça vient, quoi. Donc c'est ça que je voulais raconter.
Et alors le truc, si ce n'est la muse, c'est l'urgence.
Oui, bien sûr. Mais tout le monde a cette urgence-là dans la création, forcément. Hein.
Et donc il faut avoir faim aussi pour créer, j'imagine.
Ouais, bien sûr. Il faut avoir un moteur, en tout cas. Ouais. Ça dépend. Pour quelqu'un, c'est une muse. Pour quelqu'un, c'est le manque d'argent. Pour quelqu'un, c'est l'envie de briller. C'est le pouvoir. Mais chacun doit avoir son moteur pour créer, parce qu'en plus, il faut avoir l'ego de dire ce que je vais écrire, ce que je vais raconter, ce que je vais va intéresser quelqu'un. Il faut quand même avoir un sacré ego.
En tout cas, ce processus est extrêmement bien raconté dans Edmond. Le film sort ce 9 janvier, signé Alexis Michalik, qui est notre invité, et on vous encourage à le voir parce que nous l'avons adoré ce film.
Et ça n'empêche pas, si on a vu la pièce, on peut quand même aller voir.
Absolument. Oui, absolument. Et même si t'as pas compris aussi, tu peux y aller.
Ah bah c'est bon, ça m'intéresse.
Tanguy Passureau, tous nos voeux, Tanguy. Merci. Tanguy, Franck Ribéry.
Nous, il nous a rien souhaité.
S'en est pris à nos mamans et à nos mamies carrément.
Ben oui, parce qu'on lui reproche d'avoir mangé un steak recouvert d'or, ce qui est la base pour un footballeur pété de blé avec manger des nuggets en saphir. Il a donc répondu dans sa langue à lui, c'est-à-dire qu'il a écrit niquez vos mères et vos grands-mères. Les papys ont été très déçus, ce sont les grands oubliés des insultes.
On en parle après les infos de midi.
La bande originale, l'événement, la deuxième partie.
C'est pas dingue ça, comment elle nous présente.
C'est fou, hein.
C'est fou.
Et en plus, elle le pense. Ouais. Bah ouais. C'est ça qui est dingue. Elle reviendra toute l'après-midi nous informer. À 13h, ça sera le journal de
Bruno Duvic.
Merci, Laetitia Gaillet.
Il n'y a pas de problème.
C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ouais, je suis là.
Tom Villa.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol. arrête le générique, je suis obligé de le dire. Chaque fois, au début de l'émission, déjà tout à l'heure, quand j'ai dit Alexis Le Rossignol, tout de suite Alexis Michalik s'est approché du micro pour dire bonjour.
J'étais prêt.
Et après, il dit ah non, c'est pas moi. Non, ok, non, donc moi, je reviens en arrière. Et donc, allez, reprends le générique. S'il te plaît. Oh. Et Tanguy Passion.
Ouais.
Merci, bonjour.
Notre invité étant Alexis Michalik.
Ah oui, c'est moi.
Ah voilà, c'est toi, c'est vous. C'est vrai que il y a pas tant d'Alexis.
Ça arrive pas souvent.
D'Alexis,
c'est des gars qui sont pas très radiophoniques, contre Montenegui, hein, je pense.
J'assume totalement mes non-vannes.
Jean-Claude Carrière est mort de rire.
Je ne suis pas auteur de vannes. Je laisse ça aux autres personnes autour de cette table. Virgule. Vous avez eu le don, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, avoir autant de succès avec Edmond, autant de prix, de reconnaissance de vos pères.
Ouais.
Et beaucoup de travail.
Un petit peu, oui.
Oui, quand même. Ça serait trop simple si c'était que de la chance. J'imagine que pour constituer le casting du film, ça a dû être extrêmement facile. Dire à des comédiens, voulez-vous jouer dans ce film-là?
Eh ben, ça devait être. Détrompez-vous, Nagui.
Ah bon?
Ouais. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les comédiens qui sont dans le film ont accepté.
Et oui.
C'est bien
okay.
vu.
Il y a un slogan du loto.
Réponse de Normand, là.
Voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est un bonheur de je suis ravi d'avoir ces comédiens là et qu'ils soient venus avec autant de plaisir. Ceux qui sont venus tout de suite.
Ça veut donc dire que vous aviez proposé à d'autres qui n'ont pas voulu.
Oui, mais c'est la vie, c'est le jeu. Puis ça, parfois on dit non parce que on a un autre film, parfois on dit non parce que on n'a pas le temps, parce qu'on vient d'en terminer. Enfin voilà, il y a plein de raisons hein,
mais... Est-ce que la notion de la pièce de théâtre a été un succès, on en fait un film, a refroidi certaines personnes?
Peut-être c'est ça, peut-être c'est d'autres choses, c'est des choix personnels, mais en tout cas pour ceux qui sont venus, sur le film, ceux qui avaient vu la pièce, tant mieux. Ceux qui l'avaient pas encore vu, je leur ai dit voilà quand même, juste pour avoir une idée du rythme que ça va avoir, parce que le rythme de la pièce va être semblable au rythme du tournage. Mmh. Et donc effectivement, ils sont venus, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné sont venus voir la pièce pour se dire ok d'accord, on va être sur ce d'accord, bon bah falloir
tempo,
un peu bosser, ouais.
Et le tempo il y en a absolument, ouais. Edmond au cinéma à partir du 9 janvier, mercredi prochain. Voici Tanguy Pasturo sur Inter. Tanguy, Franck Ribéry est en roue libre.
Oui, mais il a toujours été les moins stables psychologiquement que Loana, Ariel Dombal, le député Joachim Sonforget et Axel Rose des Guns réunis. Sa vie n'est qu'un immense pétage de plomb. Il faut dire qu'il en a qu'un dans l'armoire à fusibles, donc c'est vite fait. En 2012, il a tapé sur un coéquipier du Bayern. Résultat, son club lui a infligé une amende de 50 000 euros. Une journée de salaire qui passe à l'as. Il y a eu l'affaire Zaya. Mais enfin, il n'y pouvait rien. Il avait expliqué que c'était son cadeau d'anniversaire. Il y avait un gros paquet avec des trous pour que la gosse respire, il s'était dit, purée, si c'est un hamster, il est énorme. Bref, il est à fond. Il faut dire que les fouteux ont remplacé les rockstars. Vous prenez Coldplay, les mecs tournent à la tisane, on a l'impression que c'est le groupe de Cyril Ferraud. Or, il faut bien écouler la drogue et les bagnoles. Pour ça, il y a les sportifs. Donc Ribéry, récemment, est allé à Dubaï, le Disneyland des gens pétés de brosouf. Hein, pour vous dire, même les types là-bas, un sur deux, c'est un chèque. Il s'est baladé, est allé à l'office du tourisme pour demander la liste des musées. On lui a dit, il n'y en a pas. Il a répondu « Super, dans ce cas, je vais rester ». Puis, il a eu envie de s'intégrer à la vie locale. Si vous allez en Amazonie, vous bouffez du tapir avec des Indiens. Si vous allez chez Éric Drouet, vous l'aidez à choisir sur catalogue la meilleure boule de démolition pour l'Elysée samedi prochain. Si vous allez à Dubaï, vous dépensez de l'argent de la façon la plus bête possible. Alors, Ribéry, qui a comme référence culturelle YouTube, s'est alors rappelé que le boucher turc, Pey Erdogan, un autre, hein, une star du net, exerce à Dubaï. C'est un gonze qui saupoudre de sel des steaks en faisant de grands gestes, ce qui visuellement ressemble au parcours de Vincent Moscato dans Danse avec les stars. Il va donc voir le boucher star du net dans son resto, on le sait parce qu'il met tout sur Instagram. Et là on le voit assis à table devant une entrecôte recouverte de feuilles d'or. Chez lui même la viande est bling bling. Je pense que s'il avait voulu en plus des choux de Bruxelles, il aurait appelé les bijoux Chopard pour en commander 9 farcis de diadème. Dans son colon, il y a plus de carac sur l'alliance de Jade Lagardère. Donc l'entrecôte aurait coûté 1 200 €, ce qui fait cher. Pour ce prix-là, vous pouvez passer 30 jours au buffet flunch à taper à volontiers dans le saladier à carottes. Donc moi, si j'étais Ribéry, je me dirais, on est dans une période où bien des gens n'ont pas de blé. Regardez Benjamin Griveaux, l'état de la porte d'entrée de son bureau. Je vais faire profil bas, plutôt bouffer un steak Lidl à 3,80 € sur un rond-point. Mais Ribéry est hors sol. Il passe d'un terrain où il joue dans l'herbe à un lieu où on découpe des steaks. Il a la vie d'une vache, mais en plus riche et en moins fin. Il va finir dans une vidéo d'L214.
Alors les internautes, notamment, ont critiqué le fait qu'il mange de la viande en or.
Oui, et ça, Ribéry, ça l'a rendu ivre de rage. Et samedi, il a répondu de la manière la moins diplomate qui soit. Il a écrit « Pour 2019, remettons les points sur les i et les barres sur les t », ce qui prouve qu'il connaît quand même deux lettres. Et là, il s'adresse, je cite, aux rageux et aux envieux. Et il écrit « Niquez vos mères, vos grands-mères ». Alors, techniquement, on peut faire ça, mais ça casse un peu l'harmonie au sein de la famille. Et ajoute-t-il « Niquez même votre arbre généalogique ». Wow. Donc là, c'est plus dur, à moins de rouler le document sur lui-même et de le pénétrer par le petit trou du milieu, comme ils font avec les nems dans les restos chinois quand en entrant vous n'avez pas dit bonjour. À noter que ce sont toujours maman et mamie qui prennent. Hein. Jamais un de ces idiots vous dira d'aller niquer papy ou de prendre votre oncle René contre la cheminée. Pour les insultes, on prend les femmes. Et Ribéry, le Verlaine de la loose, ajoute « Vous n'êtes que des cailloux dans mes chaussettes ». Ce qui est terrible parce qu'une chaussette de footballeur, personne n'a envie d'être dedans. Après 90 minutes de jeu, c'est chaud, humide et ça pue, donc autant aller à 17h dans les vestiaires de la bulle tropicale de Center Park, c'est pareil. Et là-dessus, la femme de Ribéry, Waïba, s'amuse, hein, comme chez Ronsard mais sans le QI, écrit à son tour, je cite, « Oui, nous avons chié des paillettes ». Alors rien que cette phrase prononcée en 76 aurait suffi à mettre fin à la vague disco. Et elle ajoute, « Et bordel de merde !» En langage Ribéry, ça signifie flûte alors. « Ça fait un bien fou. Voilà un couple élégant, glamour. On a envie de faire un film sur eux, Titanic. Il y aurait Ribéry sur un bout de bois en train de flotter, Waïba Ribéry qui lui dirait « Va chier, j'ai pas de place ». Ribéry répondrait « Nique ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et son chat ». Et là, ils couleraient tous les deux parce que ses couillons seraient accrochés au seul bout de bois en or. Un Weiba ajoute « Pauvre France d'avoir autant de connards et de connasses ». Bon là, faut pas exagérer. Deux, c'est pas énorme. La propension de ces gens à parler d'eux-mêmes tout le temps. Enfin, le Bayern, bien sûr, a annoncé qu'il allait sanctionner Ribéry parce qu'en Allemagne, personne ne dit « Niquez vos mères ». Ben non, ils parlent pas français. Hein. Et puis là-bas, mais ça a choqué. Nous, on est habitués à la violence des propos. On a Bouba, Caris, Anelka, Mireille Mathieu, il paraît quand elle est défoncée. Mais en Allemagne, on ne s'en prend pas à ses ancêtres alors qu'on pourrait au vu de l'histoire. Bref, les repas de famille chez les Ribéry, ça doit être compliqué. Je sais pas si Waiba a toujours sa maman, mais si Francky à table énervé lui dit « Nique ta mère », l'autre en face va s'étouffer avec son poulet en or. Consolation, ces gens arrivent déjà à conjuguer le verbe « niquer ». C'est un début.
Merci Tanguy Pastreau. La bande originale,
Nagui, sur France Inter. Tanguy à Palavas-les-Flots le 18 janvier et à Arles le 19.
Voilà qui est dit. So, cinéma, ça sera le 9 janvier prochain. Edmond, un film que vous portez. Alors si, on en revient à l'histoire, c'est-à-dire à la première écriture que vous avez faite du scénario après avoir vu Shakespeare in Love, on remonte à combien d'années?
Oh, ça fait 15 ans, je pense.
Ah ouais?
Ouais. Ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans, mais c'est bien.
Fou.
Mais c'est bien d'avoir des projets comme ça. Bah, c'est vous dire à quel point j'ai été heureux quand je me suis retrouvé sur le plateau, quoi, à tourner ce film, évidemment. C'est, on n'y croit plus, quoi.
Au point, ce que j'allais dire, ouais, au point de ne pas y croire.
Bah, ouais, enfin, ça a toujours été un truc, un rêve, quoi. Mais c'est super, hein, c'est génial de pouvoir réaliser ces rêves.
Et finalement, ça a été, toutes les embûches qui vous ont empêché de réaliser ce rêve au début n'ont fait que nourrir et améliorer le projet. Parce que la pièce de théâtre, déjà, vous avez commencé à revoir la structure, l'écriture, comme vous le disiez.
Ouais, bien sûr. Et mon permis de réaliser le film, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que l'histoire aurait pu s'arrêter là il y a 5-6 ans si quelqu'un avait dit bah oui, je le fais. Et puis voilà, et puis ça aurait été quelqu'un
on
d'autre.
On va pas jouer au jeu des 7 erreurs, mais est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre la pièce et le film?
Il y en a quelques-unes.
De mémoire, ouais, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça, non?
Non, c'est des petites bricoles. C'est plutôt des petites bricoles. En fait, la grosse différence, c'est juste la façon de raconter. C'est qu'au cinéma, bah, on est plus près des acteurs. Donc la façon de jouer aussi est plus douce, on va dire, et plus subtile. Au théâtre, on doit projeter, donc on est beaucoup plus dans le rythme, dans la farce, dans l'énergie. Au cinéma, il y a de l'énergie aussi, il y a du rythme, mais par contre, bah, quand on est au balcon et qu'on se dit des jolis mots, on peut vraiment avoir la caméra toute proche et puis susurrer ces jolis mots, et donc l'émotion, la musique prend plus le pas aussi.
On va pas dévoiler, mais il y a des effets, cinématographiques extrêmement bien réussis, notamment dans l'interprétation
de
la fin.
Ouais.
C'est sublime.
C'est Cyrano.
C'est un
quoi.
Vrai bon moment de cinéma.
Disons quoi. Qu'à la fin, il devient Cyrano.
On quitte les planches.
Ouais.
D'une certaine
façon. Exactement.
Voilà.
Ouais. Bah, c'était histoire de d'amener cette fin. Il fallait qu'à ce moment-là, je fasse en sorte que le public se rende compte que Cyrano, c'est une aventure tellement extraordinaire que quand on arrive à la fin de cette pièce, on oublie qu'on est au théâtre.
Mmh. Quand les idées vous viennent, vous les partagez avec d'autres. Vous vous dites, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ou est-ce que vous êtes confiant et vous dites, vous savez que c'est ce que vous voulez faire?
Les deux, je pense. C'est-à-dire que je pitch à mes amis, je raconte des histoires, et puis je regarde un peu comment ils réagissent, et puis je me dis, bon, ok, bon, là, il y a une petite faiblesse.
Mais la frontière entre la politesse et la franchise?
Non, mais c'est plus, c'est même pas ce qu'ils disent, c'est quand on raconte une histoire à quelqu'un, on voit s'il est happé ou pas. Voilà, c'est ça. Et si on est honnête avec soi-même, on se rend compte que, bon, là, il va falloir que je trouve autre chose parce que j'ai perdu son attention, là. Mais à côté de ça, quand je suis moi-même ému par une histoire, comme c'est le cas, voilà, je vais lire un truc, une anecdote sur internet, je sais pas où, je vais dire ah, là, ça m'émeut vachement cette histoire, et ben ça émouvra d'autres gens si je la raconte à ma manière, quoi.
Vous parliez d'urgence tout à l'heure. Vous avez l'air complètement intranquille.
Ah non, pas du tout.
Dans
je suis
une
très
envie
moi.
De faire.
Si
de...
croyez-moi, vous avez l'air très
c'est vrai, je suis très intranquille.
quand on voit votre bio, toutes les récompenses aussi que vous avez eues, j'imagine que ça doit coller une certaine pression, ou alors ça libère complètement de la
pression,
fait d'avoir eu tous ces prix-là.
Moi, c'est l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que les récompenses, au contraire, ça, moi, à partir du moment où j'ai un Molière, je me dis bon, déjà, j'ai plus besoin d'espérer. C'est bon, je l'ai eu.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est pas grave si ensuite on n'est pas. On a
mais
rien,
vous semblez avoir toujours 20 000 projets dans les tiroirs, en fait.
Oui, mais c'est pas pour. Mon but, c'est pas de faire mieux à chaque fois. Au contraire, justement, cette liberté de pouvoir aller de l'un à l'autre, c'est génial. C'est que j'ai pas la pression de me dire quand je viens de faire un film, et si derrière demain je refais une pièce, j'ai pas la pression de faire mieux que le film, puisque c'est pas la même chose.
Il y a combien de pièces qui se jouent de vous en ce moment?
4. Le porteur d'histoire au théâtre des Béliers en tournée, Intramuros à la Pépinière et en tournée, Edmond au théâtre du Palais Royal et bientôt en Angleterre, et le Cercle des Illusionnistes en tournée et cet été au Théâtre de la Renaissance.
C'est voilà, bien qu'ils aient supprimé l'ISF, non?
Et vous pouvez continuer à tourner, à les voir.
Bien sûr.
Ouais, vous assistez aux représentations, ça doit demander aussi un boulot.
Là, en ce moment, j'étais un petit peu occupé, mais disons que j'y retourne quand il y a des nouveaux comédiens qui arrivent dans la troupe, où là, évidemment, je m'occupe des répétitions, donc forcément, je redonne des notes.
Et à ce talent vient s'ajouter le talent de la réalisation d'Alexis Michalik avec ce caméo dont on va parler dans quelques instants au cinéma. Donc le 9 janvier, il sait écrire, il sait jouer, il a tous les talents.
Ah là là.
Oh, c'est chaud.
Oui, je parle de vous, Alexis Michalik, et pas du tout de l'inverse, c'est-à-dire Daniel Morin.
Allez, Daniel.
C'est le pied de l'âne, quoi.
Courage.
Quelle joie, quelle immense joie de consacrer une émission qui, par le biais d'un film, rend hommage à Cyrano de Bergerac. Ah, nom de Dieu, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une rencontre Nagui Edmond Rostand. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, notre invité, Monsieur Edmond Rostand, pour Edmond, faites du bruit. Alors Edmond, Cyrano de Bergerac, waouh. L'histoire est dingue. Cyrano de Bergerac, l'histoire est dingue. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Héritier pharaon, j'attendais plus de forme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. On va relire le ton. Taisez-vous, écoutez. Émeutier, c'est la baraque entière que casse Cyrano et pas seulement la porte de Benjamin Griveaux. BTP, Donald veut faire un mur, quel joli projet. Cyrano, lui, les murs, il les fait tous trembler. Romantique, Yann Moix n'aime pas les femmes de 50 ans passés. Cyrano sont les cons qu'il ne peut pas blairer. Ecclésiastique, Monseigneur Barbarin comparé aujourd'hui pour avoir ignoré 20 ans de pédophilie. Cyrano aimerait bien, ne serait-ce qu'une nuit, écraser dans ses bras ce curé étourdi. Apocalyptique, la planète se réchauffe, les hommes sont menacés. Et s'il n'en reste qu'un, Cyrano sera le dernier. Diplomate, Alexandre Benalla, agent diplomatique. Pourquoi pas Balkany en contrôleur du fisc. Il lui faut deux passeports pour aller au Congo, mais c'est jusqu'à la Lune que voyage Cyrano. Et apprenez aussi, mon petit monsieur Guy, que Cyrano n'est pas seulement exceptionnel, il est aussi humble et généreux. Sportif, Pontivy a perdu contre le PSG. Cyrano, les petits, il les laisse gagner. Culinaire, Ribéry s'est offert une entrecôte en or. Cyrano, une gourmette en saucisson pur porc. Ribéry, par son geste, nous offre son mépris. Cyrano, du poignet, distribue salami. Voilà ce qu'à peu près, mon cher Nagui, vous auriez dit si de mon Cyrano vous aviez tout compris. Mais tout n'est pas perdu et comme j'ai belle voix, j'accepterai avec joie de faire taratata. À demain.
Oh là, oh oh,
bravo. La bande originale avec Nagui.
Ça. Mais non,
c'est des faux Alexandrins, laisse tomber.
Il y a quelqu'un qui veut jouer au théâtre, là.
Laisse tomber. Il n'y avait pas 12 pieds à chaque fois, je les ai comptés. Bravo, Daniel. Bravo. À ce propos d'Alexandrin et de poésie, d'ailleurs, vous aviez envie qu'il y ait. Il y a de la poésie. Et là, c'est le personnage de Jean-Michel Martial qui, honoré, ouais. Qui parle et qui sert même en faisant de la poésie. Ouais. Mais vous avez tenté des Alexandrins aussi. Vous vous êtes dit, ça serait amusant dans...
Il y en a quelques-uns dans le film, vous voulez dire.
Oui,
il y en a deux, trois, mais c'est vraiment juste pour faire la liaison entre moi. Ce que je voulais, c'est évidemment ramener le texte de Rostand. Donc il y a certains moments dans le film, sans tout dévoiler, où on rentre dans une scène où l'inspiration lui vient et donc les Alexandrins ressortent. Mais le but, évidemment, c'est que les gens qui ne connaissent pas Cyrano ne puissent pas savoir qu'est-ce qui est Rostand et qu'est-ce qui est moi, quoi. Donc du coup, le but, c'était d'arriver à mettre la scène du balcon, d'arriver à mettre certaines scènes un peu mythiques. Avec les lettres à l'hôtel, etc., mais sans s'en rendre compte. Donc c'est toute l'adaptation. Quoi.
Et alors la muse, parce que l'histoire d'amour entre
Lucie Boujna,
interprétée par Lucie Boujna, pardon, l'histoire d'amour entre Edmond Rostand et sa Roxane, celle qui est la véritable dans la vie, mais ou avec cette suspicion de la femme qui se sent trompée, mais qui est peut-être prête à tous les sacrifices.
Est-ce que c'est vrai?
Oui.
Non. Non, c'est pas vrai.
C'est une sorte de poupée russe, quoi. C'est une histoire dans l'histoire.
Bah, il fallait, moi, pour arriver à faire la mise en abîme du triangle amoureux Cyrano, Christian, Roxane dans le film, il fallait qu'il y ait un triangle amoureux. Or, à ce moment-là, Edmond Rostand, il n'y a pas de triangle amoureux. Il est avec sa femme, il est très amoureux d'elle, c'est sa muse. Et d'ailleurs, il faut que je rétablisse les faits, hein. C'est que la vraie Rosemonde avait beaucoup plus d'importance que ça. En fait, ma Rosemonde, mon personnage de Rosemonde et mon personnage de Jeanne, qui est s'amuse, ouais. c'est en fait la vraie Rosemonde. Ouais. C'est deux facettes D'accord. de la même personne. D'accord. Lui, c'était sa femme qui était sa muse. Elle était très belle, elle était très intelligente. Elle l'aidait énormément. Elle ramassait des papiers, des verres qu'il avait jetés en lui disant « Mais si, ça, faut le faire. » Elle a vraiment eu une fonction d'éditrice sur Cyrano de Bergerac. Elle l'a soutenue tout le temps. Et elle était elle-même brillante. C'est elle qui a écrit les vers « Je t'aimerai plus qu'hier et bien moins que demain. Mm-hmm. » Ça fait partie d'un poème qui d'ailleurs parle d'Edmond Rostand.
Qu'elle a adressé à son mari,
bien D'accord. sûr. Quand on lit le poème entier, c'est à Edmond Rostand. Et puis cette femme, eh ben en fait, à la couturière du spectacle, c'est-à-dire la dernière répétition ouais. avant qu'il y ait du public, quoi, enfin avant qu'il y ait beaucoup de public, eh ben il se trouve que l'actrice Maria Legault a eu une extinction de voix. Celle qui devait jouer Roxane a eu une extinction de voix et donc a dû se faire remplacer. Et c'est Rosemonde, la femme d'Edmond, qui l'a remplacée et qui a joué Roxane en fait à la couturière et qui raconte dans sa mémoire que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc la vraie muse d'Edmond, c'est sa femme. Mais il se trouve que pour faire cette mise en abîme de triangle amoureux, il me fallait un autre homme et donc est née l'idée de cette muse et de ce jeune homme qui est Léo, joué par Tom Lepp.
Alors vous avez tous les talents, celui d'être comédien aussi, le clin d'œil de faire ce caméo, de faire cette présence en tant que Fédo.
Alors est-ce que je peux vous avouer quelque chose, c'est que à la base je l'avais proposé à quelqu'un d'autre qui au final ne l'a pas fait parce qu'il était trop occupé par son film, c'était Nicolas Bedos.
C'est pas vrai, c'est génial.
Ouais, absolument.
C'est encore désisté.
Je me disais que ce serait très drôle.
C'est injuste, c'est injuste le retour de l'histoire.
Et en fait finalement génial. Lui faisait son propre film, etc. Il avait pas le temps et donc du coup j'ai dit je vais le faire. Alors, encore une fois. et voilà. Mais c'était un plaisir de faire Fédo parce qu'évidemment, Fédo, c'est super drôle. Quoi. Déjà, dans le film, c'est une tête à claque. Dans la vraie vie, il n'était pas comme ça. Hein. Il était beaucoup plus sympa avec ses amis auteurs. Mais c'est la star de l'époque.
Très suffisant. Ouais, c'est,
ça. C'est celui qui écrit. Tous ses succès. Toutes ses pièces sont des succès à l'époque. Donc, j'imaginais que ce serait drôle d'en faire un mec un peu insupportable qui affiche son succès à la gueule de tout le monde.
Votre avenir proche, donc la sortie de ce film ce mercredi, 9 janvier. Sinon, vous serez le 20 février à l'affiche du film Le Chant du Loup d'Antonin Baudry avec Omar Sy, Reda Kateb et Mathieu Kassovitz. Vous y jouez quel personnage?
Et François Civil qui fait le rôle principal. J'y joue le second du sous-marin de Reda Kateb. Voilà. Et c'était super, on a tourné. C'est Antonin Baudry qui a écrit Quai d'Orsay. Lui, il avait écrit Quai d'Orsay. Et lui, c'est son premier film aussi. Et on a tourné dans des vrais sous-marins de la Marine nationale. Génial. Et c'était assez extraordinaire.
Edmond donc sera joué en mars à Birmingham.
Oui, tout à fait.
Intramuros aussi va être adapté.
Intramuros en avril à Londres, au Park Theatre.
Et c'est maman qui.
C'est maman qui a fait la traduction d'Intramuros.
Génial. Ouais, et vous avez publié votre premier roman d'aventure qui s'appelle Loin.
Oui.
En septembre prochain aux éditions Albin Michel.
Absolument. Absolument. Voilà, donc c'est une bonne année qui s'annonce.
Ah non, mais on vous la souhaite.
Les journées durent combien de temps pour vous?
Non, mais en fait, en vrai, pas si longtemps que ça.
Vous dormez peu, peut-être,
non? Ça dépend des moments, mais non. Ce qui est fatigant, c'est effectivement quand il y a de la création du théâtre, etc., c'est que la journée commence le matin, mais finit après la reprise, quoi. Donc après les notes, etc. Donc c'est des longues journées. Mais non, je dors très bien. C'est pour ça que je bois pas d'alcool et que je mange pas de sucre et tout ça.
Et le roman que vous avez écrit, vous le voyez déjà adapté?
Ah, on est un peu tôt là. Déjà.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous l'avez écrit,
vous
voyez des images déjà dessus.
Ouais. À la base, je pense que le point de départ c'était une série, mais que comme ça aurait coûté trop cher pour être une série, je me suis dit je vais en faire un roman.
Et c'est quoi l'histoire en quelques mots?
Oh là là. C'est une histoire de d'identité, de voyage, c'est un jeune homme qui part à la recherche de son père disparu depuis 20 ans, voilà, et qui va parcourir un peu la planète.
Ça n'a pas l'air beaucoup travaillé, ça, en fait.
Le pitch, non, j'y suis pas, on verra en septembre.
Non, ce qui est fou, c'est que vous, on l'entend là autour de cette table, vous aimez raconter des histoires,
oui,
et on sent bien que le point de départ, c'était aller lire dans la bibliothèque avec papa et maman d'autres histoires. Vous avez ça dans le sang.
Ouais. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que moi, on m'a jamais dit ça au début, quoi. Je veux dire, moi, j'écrivais depuis que j'étais ado, et puis je faisais lire des nouvelles, des trucs autour de moi, mais personne me disait c'est super. Hein. Je me dis, oh, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus, se casse pas trois pattes à un canard. Et vraiment, ça a été la surprise, le porteur d'histoire, parce que tout d'un coup, je me suis dit, ah bon, ça intéresse quelqu'un, bon, je vais continuer à écrire alors. Mais ça a été sur le tard, quoi.
C'est parfait. Edmond, le film sort mercredi à Beaune. Mercredi, c'est notre parrain qui va revenir dans l'émission. Didier Deschamps. Champion, je sais pas si vous connaissez.
Si vous savez.
Non, je sais pas ça. Non, mais champion du monde. Vous souriez, j'allais dire, je sais pas si vous aimez le football, mais.
On a tous aimé le football cet été, en tout cas, c'est sûr.
Voilà. Bon, écoutez, on lui transmettra, j'imagine, votre admiration. Bon.
Didier Deschamps sera notre invité mercredi, puisqu'on parle de nos invités cette semaine. Mardi, demain, Julie Gayet et Lolita Chama seront à ce micro. Jeudi, Jacques Gamblin et Nils Tavernier. Vendredi, Emmanuel Berko. Mais pour l'instant, c'est Alexis Michalik que nous parlons d'Edmond. Nous parlions d'Edmond parce qu'il est temps maintenant de s'excuser.
Bien évidemment, et désolé pour Nicolas Demorand, Laure Adler, Léa Salamé et tous les polytoxicos de France Inter qui ont décidé d'aller se saouler la gueule quand ils ont découvert, avec anxiété et effroi, qu'Alexis Michalik n'avait jamais été ivre de sa vie. Jamais ivre, ok, mais ça, c'était avant de rencontrer Leïla. Désolé pour Augustin Trapenard, Sonia De Villers, Charline Vononecker et tous les gens sans amis de France Inter qui ont découvert la fête qu'Alexis Michalik avait eue pour ses 30 ans, organisée par ses très très nombreux amis. Ok, mais ça, c'était avant de rencontrer Leïla. Désolé pour Jean-Claude Carrière qui m'a appelé à la pause pour me dire à quel point il avait été vexé, humilié, tambouriné de honte de ne pas avoir été contacté pour faire la voix off du film. Jean-Claude, faut pas le prendre mal, c'est Alexis qui a merdé. Il aurait dû demander conseil à un pro comme Nagui et faire confiance à Leïla.
Mais oui, mais évidemment. Mais tellement.
Santé.
Puisqu'on arrive à la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire du générique de fin du film? Parce que je le trouve à la fois génial et à la fois c'est une belle surprise. Donc comment...
C'est un hommage à tous les Cyrano, enfin à tous ceux en tout cas dont on a pu mettre la main sur les images qui ont interprété le rôle.
Et votre préféré?
J'en ai pas.
Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Descriptif? C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule.
Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes pour tendre ce perchoir à leurs petites pattes?
Pédant! L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de fer sur tant d'os.
Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap.
Dans l'ordre, Jean Piat, Jacques Weber, Gérard Depardieu, Michel Villermoz et Philippe Torreton, pardon, dans l'ordre chronologique de ce petit montage réalisé par Hélène.
Ça marchera jamais cette tirade.
On voulait vous saluer. Et ce qui est fort, c'est que ça marche toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours la larme aussi. Enfin, on a le rire quand c'est drôle et on a la larme sur le final et de cette réussite que vous signez. Edmond sortira mercredi au cinéma. Bravo Alexis. Michalik, merci d'être venu à ce micro. Bonne journée sur Inter. Il est l'heure de Philippe Bertrand et de nos vœux.
Hey, bonne année.
Oui,
et bonne émission. Bravo. Et pas facile de jouer dans un sous-marin. Tu te manques, tu torpilles le film.
Qui aurait pu couler, oui.
J'ai entendu ta résolution rendre l'antenne à l'heure. Ça tombe bien. Parce que
perdu.
J'ai pris une grande résolution. Je vais commencer cette année à l'heure.
À partir de demain.
Deux échecs.
Ça, j'en prends pas, moi.
Bon, allez, bisous, les amis.
À demain. Salut.
Salut.